Bonsoir à tous, vous écoutez comme chaque lundi, en tout cas on l'espère, de tout et de rien, votre émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui on retrouve Franchon. Franchon, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. La dernière fois qu'on t'avait, t'étais au téléphone avec nous.
Oui, c'est vrai. Et vous m'avez gardé en montage.
Oui, je t'ai gardé en montage, comme je t'avais dit dans l'épisode.
Oui, j'étais contente de cette participation. C'est intéressant.
Ça a duré 5 secondes, c'était pas mal.
Oui, ça ne durera pas beaucoup. Au revoir, merci pour l'invitation.
Et du coup, avec Franchon, on a également deux hommes extraordinaires, Jeff et Raphaël. Comment vous allez, les gars?
Ah bah très bien, très très bien, mon cher Marc.
Et comme toujours aussi, très bien.
Et bah c'est fantastique. Et on a avec nous également un coussin de couleur rouge qui est présent, qui s'appelle Benjamin. Benjamin qui est dans une pièce à côté, pas très très loin, en train de terminer sa chronique. Et il nous rejoindra en cours de route d'ici quelques instants. Est-ce probablement.
Que quelqu'un sait le refaire en fait.
Ouais, mais j'avais pas terminé, mais bon, après, j'ai pas eu les sources qui m'ont aidé à avancer comme avec les janissaires. Après, franchement, est-ce que c'est vraiment important? J'ai envie de vous dire non, mais bon, il faut vraiment quand même essayer de digresser un maximum, parce que c'est vraiment, vraiment ce qui est le plus important, c'est de commencer avec un sujet et de terminer avec la météo du village à côté.
Et bah du coup, c'est parfait, merci Benjamin pour ta participation. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement avec Franchon, puisqu'on t'attend depuis plusieurs semaines avec ta chronique, t'as préparé déjà il y a un sacré bout de temps, donc je te laisse la parole.
Ouais, en fait, cette chronique, je l'ai écrite il y a un petit moment, du coup. Et je l'ai retrouvée et j'ai rien compris.
C'est vrai?
Disons que je me suis dit, mais qu'est-ce que, quoi, bon, d'accord, mais moi j'ai pris une base de ce que j'avais écrit, puis j'ai inventé des choses. Je vais parler d'une reine.
D'une reine?
La reine possédait un miroir magique.
Oh.
Dont d'une fée qui répondait à toutes les questions. Chaque matin, tandis que la reine se coiffait, elle lui demandait « Miroir, miroir au bois d'Éden, dis-moi que je suis la plus belle. » Et invariablement, le miroir répondait « En cherchant à la ronde dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. »
C'est beau, ouais, mais c'est Blanche-Neige surtout.
Oui, c'est Blanche-Neige, bravo.
Le miroir, miroir magique au mur, ne suis-je point le divin monarque d'un royaume prospère et pur?
Eh bien, techniquement, vous n'êtes pas roi.
Et Félonius, tu disais?
Non, je disais, vous n'êtes pas roi encore.
C'est Shrek, oui.
Ça n'a rien à voir, mais ça parle de miroir.
Mais oui, oui.
Ça coule.
Mais oui.
Alors, avez-vous deviné la thématique abordé,
le reflet dans le miroir, peut-être?
Non, pas tout à fait le miroir.
Mais elle nous l'a dit tout à l'heure, en tout cas, tu nous l'as dit tout à l'heure, donc je triche.
Ah oui, mais on voulait pas tricher, on voulait dire la royauté, je voulais faire semblant.
Bah oui.
Oh là là. Mais c'est la beauté, bien évidemment.
Parce que tu es fort, Marc.
Pourquoi cette thématique?
Pourquoi cette thématique?
Eh ben, je me suis rappelé à quel point Raph était élégant.
Oh.
Élégant, c'est
C'est vrai.
Avec
c'est gentil.
Un regard profond et doux à la fois, et que Marc avait un teint sublime au temps de l'automne, et que ce coussin est très rouge.
Très rouge. Il est rougi par tes paroles, d'ailleurs.
Voilà.
D'accord.
En fait, cette thématique m'a rappelé les bandes d'un fac. Oui, à la fac, j'avais des cours d'esthétique.
C'est vrai.
Alors tout de suite, vous imaginez une salle pleine de nénettes avec des blouses blanches, un pot de cire fondue et des statues en bois. Mais il n'en est point.
Attends, t'avais fait quoi comme étude du coup?
Ben, l'esthétique, c'était mes cours de philo.
D'accord.
Oui, parce que t'as pas du tout fait des études de dessin.
Non, donc, pas du tout.
T'imagines
pas,
c'est
pour ça que... Non.
Pour ceux qui connaissent l'esthétique sous forme de philosophique, perception du monde. Je ne sais pas si vous voyez qu'on prof, il était grand, plutôt âgé, fin, moustachu, dégarni sur le crâne.
Est-ce qu'il était beau du coup?
Eh ben, moi je trouve que c'est très beau.
C'est séduisant.
Son crâne est visé, sans la autre.
D'accord.
Et il le cachait avec un très beau chapeau.
Ouais.
En feutre, c'est
classe.
Et du coup, ça m'a rappelé un chapeau que j'avais chez moi. C'était très beau aussi.
D'accord.
Un jour, je l'ai essayé, ce chapeau, et je l'ai enlevé, j'ai découvert des initiales à l'intérieur. A, F, venu ça de mon arrière-grand-père.
Oh, mais c'est classe. Est-ce que ton arrière-grand-père faisait prof de philo ou pas?
Non, pas du tout.
Alfred, Alphonse.
Il était prof de fac.
Il était prof de fac. Il s'appelait comment? AF.
Alfred Légal.
Alfred Légal.
Oui, tout à fait.
J'ai une petite pause pour signaler que le coussin rouge est enfin arrivé. Il récupère son micro en ce moment même. Comment vas-tu, coussin rouge?
Eh ben, ça va très bien. Bonsoir à tous.
Eh ben, bonsoir. Bonsoir. On est en train de discuter de qu'est-ce que le beau avait franchi.
Beau et tu es arrivé.
C'est incroyable, quelle coïncidence.
Ouais. Est-ce que je tiens bien mon micro cette fois ou...
Oui, là, c'est bon,
ouais,
ça
c'est
va.
Bon, c'est bon, j'arrêterai de faire freestyle du coup. voilà, c'est bon, je suis là.
On bravo, te laisse la parole, bienvenue. Et donc, en parlant de beau, j'avais un autre cours de fac avec Madame Boudillet, qui était ma prof d'histoire de l'art. Et je me souviens d'une fois où elle nous a montré un tableau qui date sûrement du 16 ou 17e siècle. C'est un portrait.
Ouais.
Un portrait d'une jeune femme plutôt blonde, la peau très pâle. Et ce jour-là, cette prof nous a expliqué que pour être bonne à cette époque, il fallait s'épiler.
D'accord.
Mais pas les jambes, pas les aisselles, mais les cheveux.
S'épiler les cheveux.
Ouais.
Du coup, c'est...
S'épiler le haut du...
Le haut du front. Ah, avoir un front large.
Ouais,
du coup.
Voilà.
D'accord.
Pour en fait mettre en valeur le regard.
D'accord.
Lila, si tu nous écoutes, c'est pour toi.
Hein. Lila a un grand front,
un petit peu
trop.
Elle le dit elle-même,
elle
ça va
elle-même.
Être un canon de beauté irrésistible.
Effectivement, ah. En plus elle est blonde, Lila.
Oui. Ah bah du coup, ça correspond.
Pareil, c'est vrai que les blondes émissions sont fort appréciées. Et du coup, j'avais envie un petit peu de questionner sur l'évolution des canons de beauté au fur et à mesure du temps. Donc, j'ai googlé ça.
Ah d'accord. En fait, c'est un débat en fait que tu veux faire presque sur qu'est-ce qu'est la beauté en fonction des époques.
Non, pas du. Enfin, en fait, je vais vous citer quelques périodes.
Ouais.
Comment vous percevez l'idéal féminin.
En sachant que tu vas nous donner la réponse après.
Ouais.
C'est d'accord. Un quiz en fait. C'est un quiz beauté.
Et ben.
c'est génial.
Ouais.
C'est trop cool.
Tu vas pas proposer ça. Mais...
Tu commences par quoi comme.
Je vais parler de l'Égypte ancienne.
Ah, d'accord. L'Égypte ancienne, yes.
À votre avis, quelle est femme idéale, canon.
Ah, l'Égypte ancienne.
Alors, je sais pas si c'est une sorte de, tu sais, comment on appelle ça, de cliché, voilà, merci. Mais je pense plus à des femmes qui ont peut-être ne serait-ce qu'un nez relativement anguleux. Là, pour ça, et puis un visage aussi assez anguleux, bien tracé avec des contours de je sais pas, de la mâchoire, etc. Bon, moi, c'est surtout ça, bien défini.
Quoi, en fait.
Et surtout, effectivement, alors je sais qu'à certaines périodes, le cas de la rondeur est beaucoup plus mis en signe de bien portance et donc du coup de bonne santé. Mais je dirais sur des femmes relativement fines à l'époque.
J'aurais aussi pensé ça, mais c'est plus au vu des dessins qu'on en a, des hiéroglyphes.
Moi, je parierais là-dessus, peut-être sur le statuaire également. Il me semble que en termes de statue, enfin, je sais pas, mais... Moi, j'ai bien sûr en tête le buste de Nefertiti.
Bah, c'est ça, c'est en termes de...
C'est un gros cliché, mais...
En termes d'art qui nous reste, c'est plutôt des personnes fines, quoi, qu'on...
Moi, dans mon souvenir, ça semblait être quelque chose de plutôt fin, j'aurais...
Ouais, j'aurais dit pareil, ouais.
Ouais, bah, j'ai pas la vérité absolue, mais moi, c'est à peu près ce que j'ai vu. Alors, sur les formes du visage, j'ai pas trouvé plus de trucs que ça sur le nez. Mais en tout cas, la minceur, ouais, ça ressort pas mal. Le fait d'être très lancé, mais aussi d'avoir des hanches et des fesses très rebondies ressort.
En fait, ça doit être, c'est des 8 films, quoi, en fait.
Ouais,
en termes de
c'est
forme.
C'est quand même assez, c'est vrai, assez élancé.
Élancé.
Et jeune aussi.
Et jeune.
Ouais.
C'est fou, est-ce que ça correspond pas un peu au canon de beauté, j'ai envie de dire actuel presque?
Ouais.
D'une certaine manière.
En tout cas, c'est,
Avec des filles fines, grandes, mais avec des formes. Mais pas trop, mais avec le visage fin, mais pas trop non plus.
Ouais, après moi je dirais qu'aujourd'hui, enfin,
on y reviendra, ouais.
Mais c'est plus, quand même...
Encore plus fin.
Ouais, ou... Non, disons avec plus de forme.
Plus de forme,
Plus de forme, quand même, avec toujours cette taille fine, mais la poitrine est quand même, je pense, quelque chose d'important.
D'accord. Non, si je rigole, c'est parce que il se fout de ma gueule parce que j'ai le regard qui file vers ceux qui sont en train de manger à chaque fois. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez.
Mais je le fais de la plus discrètement possible.
Non, mais c'est parce que je vois.
Et du coup, alors.
Non, mais voilà, j'ai pas beaucoup plus.
D'accord. Mais en même temps, est-ce que tu peux pas voir ça aussi par rapport aux momies des gens? Parce que tu peux avoir effectivement la corpulence aussi.
qui peut peut-être être traduite par, je sais pas, une certaine forme d'usure au niveau des os, c'est peut-être possible. Comme j'ai souvenir qu'on a des personnes qui sont relativement fines quand on les a embaumées, il y a peut-être aussi cette façon de voir le côté élancé. Ouais.
En fait, je pense que ça, on détermine surtout avec les représentations.
Je pense que c'est plus simple de représenter avec les, ouais, comme tu dis, avec le, l'arc
après,
des écarts,
mais
et d'ailleurs en moyen aussi. Ouais.
Pourquoi pas.
Après, est-ce que parmi les auditeurs, il y a des égyptologues qui pourraient nous dire ça dans les commentaires de, si vous savez, mettez, enfin, commentez, quoi, partagez, c'est ça. Tu voulais dire un truc, Ben?
Non, mais je voulais simplement dire que peut-être l'art et l'iconographie, c'est pas forcément quelque chose toujours extrêmement fiable.
C'est pas forcément vrai tout le temps.
Ça peut éventuellement représenter un idéal et pas forcément ce qui est.
Oui, mais justement, parce que là, on parle d'idéal de beauté, donc, du coup, on est clairement dans les principes de ce que véhicule l'art.
Eh bah oui, ça n'a pas de sens, en fait. Oui, non, mais oubliez ce que j'ai dit, c'est absurde.
Non, mais
c'est complètement con, c'est vrai.
Bon, Ben,
c'est vrai,
je
viens de m'en rendre compte.
Le coussin était un meilleur Benjamin que toi.
Pourquoi? Voilà, bon, à chaque fois, j'ai pas forcément
de détails, ouais.
Du coup, j'avais envie de connaître vos perceptions. Du coup, on va passer sur l'Antiquité, côté Grèce et Empire romain.
Et ben, putain, moi, j'ai les clichés de la série Rome qui me viennent en tête, quoi, du coup, donc, mais le problème, c'est que du coup, c'est des clichés qui sont contemporains, donc ça ne correspond pas.
C'est-à-dire que c'est pareil, j'ai moins d'idées pour les Grecs ou les Romains. Peut-être que on est toujours sur un code qui est relativement élancé. Je vois plus le code de effectivement des rondeurs chez les femmes, plus porté à au niveau du Moyen-Âge, fin de Moyen-Âge.
Moi, c'est Renaissance, les femmes bien portées.
Ouais.
Même au Moyen-Âge, dans mon souvenir, le canon de beauté, c'est plutôt des personnes fines.
Bah alors, fin Moyen-Âge, alors, ouais. Non, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est peut-être des personnes qui, après, se déterminent par un rang social plus intéressant. Mais là, on part de la beauté physique, du coup... Moi, pour moi, c'est quasiment la même chose que l'Égypte. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, bah en plus, Cléopâtre...
En plus, c'est la même période, quasiment. Ça dépend quand on parle d'Égypte,
oui,
du coup,
c'est
tu vois, c'est...
Là, on parlait d'Égypte, d'Égypte antique, donc du coup, on est plus sur...
Okay.
On est pas sur la Ptolémaïque, on est sur l'Égypte antique.
Je rappelle que je suis historien.
Moi, ce que j'aime pas mal, c'est le côté athlétique, en fait.
Ah, oui.
Mais ça, c'est pareil, c'est pas sur...
l'iconographie.
En ce qui concerne les iconographies, quand ça, par exemple, quand c'est Aphrodite, comme c'est la représentation de la beauté, parce qu'on peut pas penser en fait que justement, à travers ça, les Grecs, ils montrent leur perception de la beauté. Donc, je sais pas si à chaque fois les statues en fait, bah, d'Aphrodite représentent à chaque fois leur canon de beauté. Bon, je sais pas. C'est une petite, jette un pavé dans une mare comme ça.
Non, mais oui, bien sûr. De toute façon,
contrairement, tu vois, à l'Égypte où, on représente des choses, mais c'est pas forcément. Là, on représente vraiment
le principe même.
Oui,
puis c'est le problème, c'est qu'après Aphrodite, c'est pas que la déesse de la beauté, c'est aussi la déesse. C'est aussi la déesse de la sexualité.
Ouais.
Plus d'ailleurs que de la beauté, la beauté du foyer qui est représentée par Héra, la beauté de la guerre, mais ça on vient de là, qui est représentée par Athéna, etc.
De la
chasse par Diane, etc. Enfin, c'est... Mais en même temps, les toutes, tu vois, pour plager Paris, je sais pas qui aurait choisi, tu vois.
Entre les trois. Mais
c'est difficile parce que derrière la beauté, il y a tout un truc qui est subjectif aussi, je
crois. Bah, oui, ça se balade.
Et donc, du coup, alors?
Et non, du coup, en cité, plutôt, jeune, athlétique et fonctionnaire.
Dynamique, quoi.
Du coup, passons au Moyen-Âge.
Au Moyen-Âge? L'imaginaire que j'en ai, je sais pas, c'est des personnes aussi fines, relativement plus fines, je pense que, en Grèce, pas forcément avec des formes. Pour moi, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment arrivé dans l'iconographie plutôt à la Renaissance, époque moderne. Donc, je sais pas si j'ai raison ou pas, parce que j'ai plus vraiment beaucoup de souvenirs, donc je sais pas ce que les autres en pensent.
Moi, très sincèrement, j'en ai pas la moindre idée, hein.
C'est-à-dire que... C'est toujours le problème, ouais, si tu prends les séries historiques, les séries historiques.
J'avoue que là, autant l'Égypte, j'avais peut-être des clichés en tête, des images, des a priori, mais là, pour l'Antiquité,
c'est le Moyen-Âge,
Ah, vous êtes passé au Moyen-Âge. J'étais concentré.
C'était concentré pour ouvrir un paquet de beans.
Ouais, je sais pas ce que c'est.
Ce sont des mochis.
Des mochis
avec des haricots rouges.
Ah, Moyen-Âge, après, oui, non, mais non plus, en fait, non plus,
Merci Ben.
J'ai bien ce cliché, mais je pense que c'est plutôt cliché Renaissance.
C'est la Renaissance.
Très très blanche et ainsi de suite.
Pâle.
Mais là non. Donc mon intervention était encore une fois un petit peu inutile.
Mais c'est pas grave, Benjamin.
Est-ce que du coup là
45 minutes de Janissaire.
Ah si, je sais. Pour le Moyen Âge, la femme enfin le du coup le canon de beauté du coup serait plus situé, effectivement t'en parlais par rapport au sport, par rapport enfin au physique pour l'Antiquité, je parierais plus sur la culture pour le Moyen Âge. C'est-à-dire des femmes cultivées du coup ou de bonne éducation, c'est ce qui en fait je pense était un des canons de l'époque. Enfin c'est ce que je dirais perso.
Beauté,
enfin de ce que les gens pensaient à l'époque, oui. Personne bien cultivée effectivement
Je pense que
ça
peut porter sur le
physique. Ben, si, enfin...
Si on parle en termes de couleurs, au Moyen-Âge, les vêtements, c'est des couleurs qui sont chaudes, c'est des couleurs qui représentent l'épée, la chaleur, le bien-être. On est très loin des clichés, justement, véhiculés par les séries ou les films, où c'est des gens qui sont habillés tout en noir, en gris, qui sont en train de faire blaaaaaa, en train de venir dans la rue, en train de sortir caca par la fenêtre. C'est une époque qui est très vivante, quoi, en fait. Donc moi, j'imagine vraiment des gens qui sont vivants. Le critère de la beauté, je pense, là-bas, c'est... au contraire, c'est pas forcément du dynamisme, mais ouais, quelqu'un qui a de la patate, quoi. Ouais, j'imagine quelqu'un de ouais, bronzé, fin, quelque chose dans ce goût-là.
C'est vrai que c'est plutôt le côté fin qui ressort. Et apparemment, l'important, c'est que plus porté sur le visage que sur
le corps. Ouais, c'est ça, que sur le corps.
Mais sinon, oui, c'est plutôt un air humilié, voire prépubère, avec une peau plus blanche, un peu hanchée, petit sein. Et le ventre... Et peu de matériel.
D'accord, donc naturel quoi.
Sans artifice.
Sans artifice.
Au naturel comme les Français.
C'est ça.
Et donc du coup, on a la Renaissance.
Et du coup, bah Renaissance, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est.
Oui, je crois qu'en fait, on en a parlé un petit peu pour toutes les époques. En fait, on a un petit peu peut-être résumé.
C'est très long à chaque fois la Renaissance.
Ouais.
C'est fort dommage d'ailleurs parce que.
Même si c'est une époque de merde.
C'est de merde, je sais pas, mais.
Bah disons que tous les clichés attribués au Moyen-Âge sont en réalité des choses qui sont passées à la Renaissance. Peut-être qu'on fera une chronique un jour.
Oh,
mais ça a déjà été fait des milliards de fois par le nombre de gazetteurs sur Internet. Donc. Enfin bref, oui donc la beauté, c'est une beauté, des femmes fortes, peau blanche aussi je dirais, forme généreuse, etc. Bien importante pour montrer que tu travailles pas dans les champs, que t'es pas un pécor, que tu restes à l'abri et que tu manges. Enfin,
c'est ça. Ça quoi. Importante,
un X, ouais. Mmh. Je pense que c'est resté, je crois, alors, je vais peut-être bien parler, mais je pense que c'est resté au moins jusqu'au 19e, ce cliché-là. Enfin, ce canon-là.
Ce code, oui. Ouais, au moins 19e, je dirais, ouais.
Au moins jusqu'à le, ouais.
Je dirais peut-être jusqu'au début du 19e.
Oui, début 19e, ouais.
Bah, la femme de,
la révolution, quoi.
La femme de Napoléon, comment elle s'appelle?
Ah. Il y en a eu deux.
Laquelle?
La première.
C'était la République?
Oui. Joséphine.
Joséphine,
il me semble que selon les tableaux qu'on a d'elle, effectivement, c'est une femme qui est relativement bien portante. Mais après, est-ce qu'on veut faire passer ce code à cette époque-là ou pas?
En fait, à partir du 17e siècle, il y a le corset.
Ah, mais oui.
Quand même une poitrine. Opulente, mais le maintenu est... Avancé, quoi, la taille
c'est, tu passes du X au 8, quoi, en fait.
Ouais, avec des hanches, ce côté peau blanche. Et là, cette fois, on est vraiment porté sur l'artifice avec la poudre, le maquillage, les rouges à lèvres.
Les grosses perruques et tout aussi. Ça fait sens. Un peu à la Barry Lyndon, en fait.
Oui, de manière un petit peu exubérante.
Et il y a un truc marrant, c'est qu'ils se peignaient les veines. Parce que la peau blanche étant
une
blesse, etc. C'était assez plaisant de voir les veines, en fait, à travers la peau.
Mmh.
Donc, sur les veines.
D'accord.
C'est extrêmement pas sexy, quoi.
Ouais, bah, ça fait pas rêver.
Ça fait moins rêver que le reste.
Ouais.
Ça me fait penser à mon arrière-grand-mère, qui a les veines très apparentes. C'est l'image que ça m'évoque.
Et bien, la Renaissance, c'était un canon de beauté.
Ah, il y a un grand ami qui nous regarde.
Et donc, retournement au 18e.
18e, du coup, alors. Que s'est-il passé?
Siècle des Lumières.
Bah, il y a encore les corsets au 18e.
Ça se perd. Là, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment. C'est le retour vers le naturel.
Ah. Comme quoi? Est-ce que ce serait pas des cycles, tout ça?
Oh, un éternel recommencement.
Naturel, donc on retire les... On arrête de dessiner les veines.
Il y a quand même le côté mouche.
Ah oui, la mouche, c'est au 18e, oui.
Ouais, avec des indications sur le remplacement. Je pense seulement regarder les chiffres. Voilà, les coiffures aussi, on a évoqué à eux, c'est des choses moins travaillées. Voir des coiffées,
d'accord.
Quoi? Quelle indécence.
De toute façon, le
19e siècle, yes.
On y est bien.
Plus que deux siècles.
Alors là, c'est marrant parce qu'il y a vraiment deux idéaux
qui ressortent.
Ouais.
Donc le premier, c'est la bourgeoise d'importance.
Ouais.
Vertueuse, voilà, bonne mère, voilà, qui réussit aussi bien nourrie grâce à son mari, bien coiffée, pas spécialement maquillée.
Ouais.
Et le deuxième qui ressort, c'est tout le contraire. On dit la belle malade.
Ouais.
Femme qui est plutôt maigre et très pâle, qui a vraiment l'air malade, quoi.
Mmh. Ah, d'accord.
Avec qui est très mince, voire maigre, avec le teint
blafard.
Ouais, blafard. Et les yeux cernés.
Ah oui, d'accord, on est sur deux opposés, des yeux cernés, quoi. La personne qui travaille trop. Et
toutes les femmes qui bossaient en usine, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
16 heures de boulot par jour.
Ouais. C'est encore revenir à la mode, plus, du coup. Et du coup, après, on passe début 20e, je me dis.
Après, le 19e siècle, c'est un siècle qui est tellement de transformation, de transformation sociale, et ainsi de suite, que c'est normal.
C'est un siècle qui est très intéressant.
Que j'ai détesté pendant longtemps.
J'ai toujours eu du mal aussi avec le 19e siècle. Mais aussi, c'est la manière dont on l'étudiait, je pense, à la fin,
ouais,
qui était assez mauvaise, mais alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Bref, on digresse, pardon.
Digresse.
Oui, bien sûr. C'était très drôle, d'ailleurs.
Oui, je suis sûr que ça va faire de nombreux
jours. Jamais été fait, je suis le premier.
Digresse, les femmes importantes.
On enchaîne.
C'était un peu exagéré comme rire.
On redouble de...
Yes, non, oui, parce que au 19e, il y a l'intérêt pour les femmes orientales qui apparaît.
D'accord. Ah ben oui.
Donc, l'orientalisme.
L'intérêt pour
Les
brunes et les femmes.
Avec la pommade et tout. Ouais.
C'est
sûr. Qui va faire avec le colonialisme en fait, d'une manière.
Mais comme quoi, enfin voilà quoi.
Il y a plein de styles différents. Vecteur de changement un petit peu radical.
C'est ça.
Et oui, la femme orientale, elle devient symbole de mystère et de...
Les mystères de l'Orient, quoi, en fait.
Exact.
Vraiment, femme mystérieuse, presque sorcière un petit peu, mais attrayante, mystique.
Qui nous hante encore
aujourd'hui, bien sûr.
Donc, le 20e siècle, vous en doutez que la Grèce n'est plus...
Le pays.
Putain, j'allais le faire.
Ah non, elle est sous domination ottomane.
Forcément, signe de bonne santé, en tout cas. Que là, c'est tout le corps mince et en bas, c'est un peu devenir roi.
C'est le retour vers la minceur, quoi, en fait. Ouais. Mais ça se fait petit à petit, si je ne m'abuse.
Oui, bah, au
moins. C'était plutôt début 20e, peut-être, belle époque, tout ça.
Ouais, ça. Alors, ça. Il y a le style vestimentaire aussi qui change, qui devient plus sobre. Dans les années 20, il y a la mode garçonne. Avec,
les cheveux courts, c'est ça, dans le tout.
Ouais, voilà, cheveux courts. En tout cas, des habits plus. Va être plus masculin. Et puis apparaît au milieu du 20e, le côté un peu plus pulpeux, style Marilyn Monroe.
Ouais.
Ah, aujourd'hui, je sais pas si vous avez des petites idées.
Ben aujourd'hui, c'est la minceur qui est de mise, au vu des trucs de
défi de mode. Avis.
Après, tu peux donner ton avis, c'est quoi ton genre?
Le silence qui suit cette déclaration.
Non, moi je suis assez fan du délire, comme tu dis, milieu 20e, finale, tout ça, c'est assez sympa. Ça m'a l'air d'être un bon compromis.
Il y a un peu de tout.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ni trop mince, ni forcément énorme.
Parce que ce qui compte, c'est pas juste l'amour finalement.
Ben si, évidemment. Mais...
Pas la question que tu lui avais posée.
C'est pas la question.
C'est une question piège.
Oui, autant pour moi.
Et après, avoir fait ces petites recherches, je trouve que souvent, on parle quand même très peu des hommes.
C'est vrai qu'on parle pas évidemment des hommes.
Donc, bien sûr, il y a des choses à dire.
Chez les Romains, fallait être chauve, apparemment.
C'est vrai?
C'est vrai.
C'était quoi? C'était, si j'ai bien compris, un signe de virilité, en fait.
C'est
et notamment
ça
d'âge et d'expérience.
Ah oui, parce qu'avec ta calvitie, tu prends de l'âge, donc t'as d'XP, ouais.
C'est l'inverse de la longue barbe, en fait.
C'est l'inverse de ce qu'on est, quoi, en fait. Je vais devoir couper ça mon tas, parce que personne ne va comprendre cette blague.
En fait, j'ai pas vraiment de conclusion.
Est-ce que tu veux qu'on parle des canons masculins, du coup, pour changer un peu de cette société patriarcale et continuer à parler d'hommes, du coup?
Bah oui, c'est un peu ça, yes. Parce que, tu sais, Fanchon fait une chronique justement sur la femme, je pense qu'on gardera les canons, effectivement. Enfin, c'est toujours pareil, c'est que le canon, il est fait par qui? Le canon de l'époque, il est fait par les femmes ou par les hommes? Il est fait en grande majorité par les hommes. Donc, il y a toujours un homme derrière. C'est affolant. C'est affligeant. Mais c'est comme ça. Alors, vous pouvez...
C'est horrible comme conclusion!
Waouh! Non! Alors, c'est pas une conclusion. C'est pas une conclusion. C'est un fait.
Oui, je veux dire, je souligne juste un fait, ouais. Ah non, je voulais pas conclure.
Ah, d'accord.
Non, en fait, ce que je peux dire en conclusion, c'est que il y a plein à dire sur la perception de la beauté, et je pense que ça fera sûrement l'objet d'une prochaine chronique. Voilà, parce que l'esthétique avec une prof de fac super stylée, avec un super chapeau, ben.
Il t'a laissé beaucoup de choses à faire.
Intéressant. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine chronique.
Fini la gourmandise, on parle de beauté, mon.
Ceci étant dit, je vais prendre un. C'est du
mochi ou
mochi?
Et bah, du coup, je me dis que c'était ça ta conclusion, terminée par manger un gâteau.
Oui.
Ben, merci beaucoup, Franchon, pour ton intervention. On parle ici de beauté. On dit d'une femme qu'elle est belle, du coup. Mais on dit d'autres choses qu'elle est belle, parfois. Eh bien, on dit que la guerre est belle. D'ailleurs, Belum, ça veut dire.
La guerre.
Exactement. Et je crois qu'on a quelqu'un ici qui est fan de guerre, comme tu l'as si bien dit lors de ta dernière chronique.
Je sais pas.
Tu aimes les tueries, tu aimes les gens morts. Non, je me suis regardé sur le bord de l'autoroute en prenant des photos, tu l'as dit dans ta chronique.
Je me suis déjà moralement dédouané de ça la dernière fois, donc on va continuer, je vais continuer, eh bien, ma série de chroniques que je vous avais promis sur les unités militaires un petit peu hors du commun, qu'on a commencé la dernière fois avec les janissaires. Alors pour ceux qui ont trouvé ça long, vous allez être contents, pour ceux qui ont trouvé ça bien, vous allez sans doute peut-être être déçus, parce que là c'est totalement l'inverse, c'est pas malheureusement autant documenté, et ce sera un petit peu plus court, donc voilà, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien,
35 minutes.
On va voir, Non, là cette fois j'ai une page voilà, c'est à peu près. Alors moi je vais commencer par le bataillon sacré de Thèbes.
Le fameux.
Le fameux, bah voilà.
On connaît comment cette histoire se termine déjà.
Bah, je sais pas spécialement comment elle se termine, mais je peux vous dire à peu près comment elle a sans doute commencé. Non, en fait, je dis ça, j'en sais rien, parce qu'en fait... Non, mais le problème, c'est que le bataillon sacré de Thèbes, pour être très franc, c'est semi-légendaire, en fait.
Ah, oh, d'accord.
C'est un bataillon légendaire. C'est peut-être un peu fort, mais disons que on n'a pas spécialement réussi à prouver si oui ou non ça existait, et
d'accord,
surtout si oui ou non il a existé sous les formes en fait qu'on nous dit qu'il a existé. Voilà, parce que c'est un régiment de la cité de Thèbes, donc
ouais,
qui se situe en Grèce antique. C'est une unité hypothétique, donc voilà, ça n'a jamais été formellement confirmé, mais le concept du bataillon sacré est évoqué en principe par Platon dans ses écrits. Il en dit la chose suivante: si par enchantement, une armée pouvait n'être composée que d'amants et d'aimés, il n'y aurait point de peuple qui porterait plus haut l'horreur du vice et l'émulation de la vertu. Deux hommes ainsi unis pourraient presque vaincre le monde entier. Car s'il est quelqu'un de qui l'amant ne voudrait pas être vu quittant son rang ou jetant ses armes, c'est celui qui l'est.
Waouh. Putain, on parlait de beauté et d'amour, là, on est...
Mais tu vois, dedans, c'est en fait absolument pas documenté. Par première citation, Platon.
Non, mais...
Bam. Oui, mais Platon, est-ce qu'il faut toujours
parler? Oui. Non, mais Platon, on parle, bien sûr.
Bah, c'est ça. Ouais.
C'est ce que j'allais dire. Platon parle de l'Atlantide, donc
Non, mais c'est intéressant.
C'est pas le plus... C'est pas la source la plus...
fiable.
C'est pas un Thucydide ou un... Ou un...
Ah, et puis même, faut toujours remettre
un Cicéron.
C'est pas
bon. Ça donne déjà un petit concept, enfin, ça donne déjà une petite idée du concept qui se cache...
Non.
Derrière celui de bataillon sacré, et il s'avère que Platon n'est pas le seul à en parler, Xénophon.
D'accord.
Le citera également, lui il en fera l'évocation en fait d'un régiment de Thébains composé uniquement de couples homosexuels en fait.
D'accord.
Alors le débat fait rage aussi bien quant à la nature des relations entre les membres de cette hypothétique unité que sur son existence même. En effet, certains décrivent le bataillon sacré comme un groupement de couples homosexuels et d'autres en fait le voient plutôt comme un groupement de couples pédérastes. Alors c'est deux choses très différentes hein, l'une de l'autre, cela peut sembler être une distinction triviale, mais ça l'est pas du tout hein. L'homosexualité, la pédérastie, c'est deux choses qui sont très très différentes l'une de l'autre, et pour qu'il y ait pas d'amalgame, je vais vous en donner
une définition.
Ouais,
du coup,
en quelque sorte une petite définition qui sera non exhaustive. Bon bah l'homosexualité, voilà, c'est la pratique de la sexualité entre hommes.
D'accord.
Voilà, tout simplement. La pédérastie, c'est quelque chose de très différent. À la base, ça commençait comme une institution éducative dans la Grèce antique.
D'accord.
Qui désignait à l'origine, en fait, deux personnes, une sorte de binôme, en fait,
ouais,
d'un homme plus âgé.
Ah.
Mûr, entre guillemets, donc
oui,
adulte,
et
était considéré jeune, comme un, comme
fait,
un éraste, et un homme plus jeune, en fait, un... généralement ouais ça va de la préadolescence jusqu'à l'âge adulte et c'était une bon après je vous cache pas que ça a aussi une composante de relation voilà pas que platonique si on peut dire mais voilà c'est la petite distinction en fait entre la pédérastie et l'homosexualité c'est absolument pas la même chose je tiens à noter qu'il y a pas
quand même relativement grosse distinction
ah oui mais énorme absolument énorme ça n'a absolument rien à voir l'une avec l'autre. Je peux citer également d'autres cultures qui ont éventuellement pratiqué ceci, parce qu'il n'y a pas que les Grecs hein, qui l'ont fait, il y a les Romains bien sûr derrière qui ont repris un petit peu à leur compte, comme tout le reste d'ailleurs,
bah, ce, qu'on
fait, ce qu'ont fait les Grecs,
que
mais
pas les
la culture japonaise aussi.
Ah,
mais,
c'est vrai
oui, la culture japonaise est imprégnée en fait de ce genre de relations qui ne sont d'ailleurs absolument pas vues en fait comme négatives.
D'accord.
Les samouraïs, les grands seigneurs japonais, enfin les samouraïs,
les shoguns,
des grands seigneurs,
les daimyo.
Les samouraïs et les grands seigneurs japonais, l'aristocratie disons masculine japonaise, eh bien pratiquaient en fait l'homosexualité et la pédérastie sans vraiment de gros tabous.
D'accord.
Et c'est loin d'être la seule culture. Moi, c'est celle que je connais un petit peu. Donc je me permets d'en parler, mais il y en a d'autres. Bon, tout ça pour dire qu'au final, on n'en sait pas beaucoup plus, mais je trouve le concept assez intéressant, en fait. Et je trouve que ce qui est le plus intéressant, selon le point de vue de Platon, parce que cette citation, en fait, je suis tombé dessus assez récemment, je ne la connaissais pas. Moi, je pensais que le concept, en fait, avait été créé et décrit. Je pensais que le cœur, en fait, de la force de ce bataillon était sa force, en fait, le fait de combattre,
celui qu'on aime, ouais, c'est ça.
D'ailleurs, qu'on est, on combat aux côtés en binôme.
De l'être aimé.
De
donc forcément, on va pas lâcher parce qu'il y a son amant qui est à côté. Et
voilà,
on
exactement. Et on sait que dans la formation grecque des phalanges, si un seul homme planche, c'est toute la phalange qui s'effondre. Donc, ce qui donnait une raison de plus de combattre ardemment. Eh bien, en fait, Platon n'en parle pas comme ça. En fait, Platon, ça n'est pas tant l'amour de l'autre et l'envie de ne pas le voir mourir que la honte que provoquerait soi-même l'abandon du poste.
Ah oui,
d'accord. La force, en fait. De cette unité.
D'accord.
Et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'était totalement, en fait, pas l'inverse de ce à quoi je m'attendais, mais une raison qui m'était pas venue
ouais.
à l'esprit et qui était différente. Bon, pour ce qui est de son existence, de ce que j'en ai compris, ça a l'air d'être quand même relativement documenté. Il y a plusieurs écrits qui en parlent, plusieurs récits de batailles auxquels ils auraient participé. Mais il se pourrait aussi très bien que, en fait, ce soit juste un régiment normal entre guillemets, qui ne soit pas spécialement composé, qui ait bien existé, mais qui n'ait pas nécessairement
pas
été composé de couples homosexuels ou pédérastes. Donc voilà. Pour ce qui est de leur équipement, bon bah c'est le classique, hein, c'est l'équipement des hoplites grecs, donc cuirasse pour protéger le haut du corps.
Ouais.
Protège tibia en bas. C'est pas très scientifique ce que je vais dire, mais jupe de latte pour ce qui est des parties.
Ah oui.
Et c'est une citation de Camelot, merci. Et jupette de latte, là, qu'ils ont. Protège tibia et bien sûr le gigantesque bouclier
rond
traditionnel
ouais.
utilisé dans les formations de phalange, la lance.
Et puis la lance.
Ouais. Et peut-être également l'épée courte dont j'ai oublié le
nom. Un glaive?
Pas vraiment un glaive, je crois que ça s'appelle un coquis.
Ah oui,
c'est
qui est légèrement
recourbé,
qui fait une sorte de dangle à 70 degrés,
qui je trouve assez élégant d'ailleurs en termes d'armes, mais voilà. Bon, comme c'était une chronique qui était relativement courte et finalement assez peu documenté.
Est-ce que tu nous aurais pas fait un bonus du coup?
Mais bien sûr, un
c'est
bonus
vrai,
qui
wow.
est relativement
wow.
court et assez peu documenté.
Et assez peu documenté.
Alors, donc on continue dans la médiocrité.
Ça, mais t'es jamais content de toi.
Non,
la dernière fois, tu disais que ça te, enfin, que t'avais pas assez bien fait.
Non, mais j'aime pas
mais,
en fait faire des trucs comme ça sans avoir trop de sources solides. Même
je
si
comprends,
bon,
je
c'est pas n'importe quoi non plus. Mais non, en fait, là, je vais vous emmener très littéralement sur un autre continent. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique, côté des Caraïbes.
Les guerriers jaguars.
Mexique. Et en effet, pour parler
de Mexico,
des guerriers jaguars. Bon, tous ceux qui ont joué à AOE, à Age of Empires 2, plus particulièrement, savent de qui je parle, n'est-ce pas?
Ah oui, la fameuse guerre
effectivement.
De l'Aztec.
Absolument. Eh bien, en fait, oui, c'est ça.
C'est
les guerriers jaguars sont les troupes d'élite de la culture et de l'Empire Aztec. L'Empire Aztec qui a dominé la partie sud et centrale de l'actuel Mexique,
c'est vrai.
Du 14e au début du 16e siècle. Il est intéressant de noter que le motif du jaguar est pour les Aztèques utilisé par ces guerriers en partie car cet animal est associé à une des déités les plus puissantes et importantes de leur panthéon. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, je vais faire de mon mieux, mais
Tetzalcoatl.
Un Quetzalcoatl, c'est le
serpent.
C'est exact. Attends, merde.
Escatlipoca.
Escatlipoca, voilà.
Ouais. Escatlipoca.
Non, mais c'est vraiment.
Bing. Mot Scrabble, mot Scrabble, mot compte double.
Bah, c'est le binôme de.
C'est le binôme des Aztèques, quoi. Ouais, le jour et la nuit, quoi, il me semble.
Qui incarne un nombre incroyablement élevé de concepts, celui de nuit, notamment, voilà. De tempête, mais aussi, voilà. Aussi de la guerre. Et qui est souvent figuré, en fait, associé à la figure du jaguar. Donc, les guerriers jaguars sont l'élite des forces combattantes aztèques, et pour en devenir un guerrier doit capturer un certain nombre de prisonniers. Et les promotions dans l'armée, dans les armées aztèques, en fait, ne sont pas données en fonction des ennemis tués, mais en fonction des ennemis vaincus et capturés. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, je l'ignorais, mais vaincre son ennemi sans recourir à la force létale était, semble-t-il, en fait, considéré chez les aztèques comme le pinacle de l'art du combat. Et au contraire, tuer semblait être considéré comme assez maladroit.
Oui, et puis en soi, c'est plus difficile de capturer quelqu'un. Alors, que de le tuer.
C'est plus difficile, en effet, de capturer quelqu'un vivant et de le garder relativement en bon état pour servir ensuite.
Et après, ça permet d'avoir un esclave, hein. C'est clair.
Ça permet d'avoir des esclaves, mais c'est aussi, en fait, une forme d'économie du sacrifice aussi. Le sacrifice humain étant extrêmement important.
Et oui, parce qu'il faut faire redémarrer le soleil avec le sacrifice.
Absolument. Alors, j'ignore trop comment marche, malheureusement, leur système de croyances. J'en ai une vague idée, mais qui est sans doute assez remplie de clichés.
Oui, c'est bon.
Mais je sais que le sacrifice humain avait une part assez importante dans la culture aztèque. Et c'était une manière, en fait, d'honorer les dieux que de capturer, en fait, des ennemis vivants. Que ce soit pour qu'ils finissent par servir de sacrifice ou pour rester esclaves, peu importe, mais c'était considéré comme un grand honneur. Alors, une fois promu au rang de guerrier jaguar, l'ascenseur social ne s'arrête pas là, car il était également possible, encore une fois, en fonction de ses performances au combat, eh bien, de se faire anoblir, et d'ainsi accéder par le mérite et non par la naissance aux plus hautes sphères de la société aztèque.
D'accord.
C'est intéressant de le noter, mais en fait, tout le monde, suffisamment méritant, performant, pouvait accéder au rang de guerrier jaguar, qui correspondait à une certaine élite déjà, et pouvait éventuellement être anobli par la suite. Alors les guerriers jaguars sont nommés ainsi, en fait, parce qu'ils se vêtissent au combat d'un juste corps qui est fait de peau de jaguar. Ils sont également équipés d'un bouclier, malheureusement sur lequel j'ai pas trouvé nécessairement d'informations, mais qui est nécessairement fait en matière végétale.
Oui, donc forcément, il n'en reste pas grand chose, quoi.
Fibre végétale et ainsi de suite, peut-être de la peau de jaguar éventuellement collée dessus pour le côté esthétique, je sais pas. Donc un bouclier pour leur défense. Pour le corps à corps, ils étaient équipés d'un macuahuitre.
C'est une sorte de massue.
Alors le macuahuitre, c'est.
Ah, c'est le truc avec les piques en obsidienne, c'est ça,
oui.
C'est entre la massue et l'épée. C'est une arme qui est assez curieuse, en fait. Je connais très sincèrement pas quoi que ce soit d'autre qui s'en rapproche.
C'est vraiment très spécifique à la culture aztèque.
Un Mac 8, c'est une sorte. Imaginez une épée en bois avec une poignée et sans garde. Donc, une épée en bois dont la lame serait assez large, en fait, et qui ne se terminerait pas en pointe, comme une sorte de batte de cricket.
Oui, c'est une batte de cricket. Ouais, c'est une batte de cricket avec des piques en obsidienne.
Maintenant, imaginez que sur les côtés de cette batte de cricket, on colle des lames d'obsidienne, en fait, en petites rangées comme ça. L'obsidienne qui, je l'ai dit en passant, est la pierre taillée la plus tranchante que l'on puisse concevoir. Ce qui donne une arme qui est relativement fragile, mais entre les mains d'un expert aussi extrêmement efficace. Elle servait essentiellement à, plus qu'à tuer, elle servait surtout à blesser et à incapaciter, en fait, les adversaires. J'ai cru comprendre aussi qu'ils pouvaient se servir éventuellement de ce que nous on considérait comme des sortes de massues, des casse-têtes, en fait. De poignards en obsidienne également, parce que l'obsidienne est au cœur, en fait, de l'outillage des
sociétés. En même temps, ça fait
des os américains.
Ça fait des lames qui sont très fines, quoi.
Absolument. De lances aux pointes en obsidienne. Et pour le combat à distance, là, il y a autre chose. Et ça devrait nous intéresser. Parce
et oui,
on en parle.
Des frondes.
Absolument.
Ah, c'est ouais.
Mais aussi une arme qu'ils appellent, eux, l'atlatz.
C'est un propulseur.
L'atlatz, c'est un propulseur, en effet. C'est une arme qui a été, a priori, inventée au paléolithique supérieur.
Exactement, ouais.
Dans les traces les plus anciennes, si je ne me trompe pas, remontent à 22 000 ans. Le propulseur, c'est une arme en bois qui fait généralement entre une vingtaine et une quarantaine de centimètres de longueur, qui se finit par un crochet qui sert à encocher de grosses flèches que l'on appelle généralement des saguets, dont la taille est bien supérieure à celle d'une flèche qui serait tirée par un arc. Ces propulseurs, en fait, servent donc à envoyer ces grandes flèches, des flèches dont les pointes sont en obsidienne, et il semblerait qu'on ait retrouvé des traces écrites d'évocation, non pas par les Aztèques eux-mêmes, mais plutôt par les conquistadors, de l'efficacité de ces saguets et de ses atlates, ses propulseurs. C'est une anecdote en fait qui est citée par Bernal Diaz, qui j'ai oublié le nom, j'aurais dû le noter. C'est un conquistador en fait, qui a roulé avec Cortés a priori et qui a écrit ses mémoires en fait sur la conquête du Nouveau Monde et plus exactement du Mexique, et qui parle de cette arme comme pouvant traverser toutes les défenses. D'ailleurs, sous-entendu, étant capable de percer les cuirasses, les armures.
En même temps, quand tu sais que ça transperce un renne de part en part à 20 mètres de distance.
Des conquistadors espagnols. Redoutablement. Malheureusement, j'aurais pas grand chose de plus à vous dire, que ce soit sur le bataillon sacré ou sur les guerriers jaguars aztèques. Donc, c'était relativement succinct, mais finalement, peut-être que ça n'est pas.
Et bah écoute, ce sera aux gens de le dire encore une fois en commentaire s'ils ont préféré la version longue et une double version courte. Quoi qu'il en soit, en même temps, c'est normal que tu nous as choisi deux thématiques qui sont très peu sourcées, donc c'est bien parce que ça laisse aussi libre cours à un peu à l'imagination, si je puis dire, à l'imaginaire de deux bataillons presque de légende, si je puis dire. De légende. Et quand on parle de légende, il y a quelque chose qui me vient en tête, il y a une légende qui est très très grande et très très puissante, et je crois que Raphaël, t'as quelque chose à nous dire dessus.
Du coup, moi, j'étais déjà dans le type moins proche de faire une sorte de hors-série avec Marc un peu sur le thème du Cervano, parce qu'on en avait fait un scénario pour Made of Force,
c'est vrai,
pour
ouais.
Star Wars, et relativement bien, et qui avait été écrit d'une main de maître, mais c'est vrai.
Non mais, c'est trop d'honneur, en fait, c'est beaucoup trop d'honneur.
C'est vrai que quand on parle du Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui est très très vaste, et donc on a souvent regardé, même on continue, même ensemble, à regarder les films d'ailleurs, notamment de la première trilogie, celle des années 2000. Et je voulais en fait vous montrer autre chose, je voulais vous montrer une toute autre histoire, comme si en fait vous y étiez, comme si vous participiez à cette histoire qui est vraiment du Seigneur des Anneaux, des anneaux de la bataille contre le bien et le mal, et puis finalement si vous suivez nos héros, comme si vous étiez finalement dans cette fameuse terre. En fait, je voulais vous parler pas particulièrement d'un jeu qui est quand même celui que j'appelle le Seigneur des Anneaux Online, mais surtout d'un aspect du jeu. Parce que c'est vrai que c'est ce que l'on appelle un MMORPG, c'est un jeu qui se joue dans un monde avec énormément de joueurs, et donc le but est tout simple, vous évoluez dans la Terre du Milieu. Alors vous pouvez devenir un elfe, un homme, un hobbit, un nain, même pas un haut elfe, parmi ceux qui sont partis de Valinor au premier âge.
Il y a un Beornid
aussi. Beornid aussi, avec différentes classes, etc. Ça c'est pour le côté vraiment du MMO. Mais je veux garder simplement un aspect qui va peut-être vous donner envie. Le but de cette chronique, c'est pas forcément de vous donner envie de jouer à ce jeu, mais de comprendre une chose, c'est le fil conducteur du jeu, à savoir ce que l'on appelle une quête épique, dans le sens où, effectivement, on va suivre les événements qui sont passés dans l'ancien Dragon, et on va laisser à côté les pièces de l'envers, et on va ramasser les champignons du Permadeath.
D'accord.
Donc, okay. Alors, du coup, je ne prendrai l'exemple de personne, ça, c'est, on va prendre, effectivement, comme disait très bien Ben, le vous de majesté, dans le sens où vous avez même, vous incarnez dedans.
Et je vais tu veux nous faire un jeu de rôle, pratiquement, parce qu'en fait, en temps réel.
Dans un premier temps, je vais vous dire comment ça va commencer, et ensuite, je vais vous détailler un petit peu le fil rouge jusqu'à la fin, et jusqu'à la distribution de l'anneau, et voir peut-être même un peu au-delà.
C'est hyper stylé.
Alors.
Donc, à nous quatre, on fait un perso, en fait.
Effectivement. Voilà. Et donc, vous allez comprendre. C'est génial. Parce qu'il me semble que vous quatre avez déjà vu le Cervano. Et donc, du coup, en soi, dans les grandes lignes, vous ne serez pas perdus des événements qui se passent au fur et à mesure du temps. C'est pourquoi je vais commencer, effectivement, par, la naissance un petit peu de votre personnage en tant que tel, dans l'importance du lore. Hein, l'importance de la quête de l'anneau. Dans une nuit sans étoiles, et sous un temps plus que menaçant, vous faites grincer la porte de l'auberge de la là, vous décidez d'aller vous réchauffer au coin d'un feu rougeoyant dont les braises, attisées par l'aubergiste, dansent puis s'envolent dans la cheminée. À peine entré, d'ailleurs, le tenancier se retourne vers lui. Il est là-haut. Il en fait partie, ce que vous avez. Et c'est encore un peu ce qu'on appelle le bonheur. Et il demande votre présence dans sa chambre. Voir le bébé, car c'était là son nom, continua avec un regard appuyé derrière. Prenez le couloir, puis à gauche, prenez l'escalier. Ah, il ne fait pas attention au vide. Vous commencez donc alors lentement à prendre le chemin indiqué par l'aubergiste. S'il est vrai que vous êtes relativement connu dans les environs pour votre ouest, vous aviez déjà entendu parler de cet homme détenu pour homme, dont l'adresse, la levée et la rapidité à parcourir de grandes distances étaient connues. C'était de là d'ailleurs que lui valait son surnom, l'Arpenteur, ou grand pas, car son véritable nom, nul ne le connaissait. Dans les sombres vallées du bonnet suivant, vous approchez de l'escalier en bois fatigué, même quartier du monde. Avant de prendre les premières marches, votre regard se porte sur quatre jeunes hommes. L'un d'entre eux semblait soucieux et ne pouvait lâcher de regard le sourire qui lui avait une mine à peu. Quel que soit, il paraissait important pour afficher un peu. Dans deux de l'autre, il mangeait pour quatre le bruit de l'autre. Arrivé au deuxième étage, vous ouvrez la porte de la chambre d'avant. Et un rôle, celui-ci, observait de la fenêtre les rues du village. En se retournant, vous ne distinguez que la bouche de François, les yeux plongés dans l'obscurité que de l'autre sa bouche. Nous ne vous connaissons pas, mais vous avez montré de main pour votre courage dans cette montée, je le sais, et pour cela j'ai bien peur de vous demander de le faire une fois de plus. Les hobbits que vous avez sans doute vu sont en danger de leur femme. Ainsi commença du coup votre histoire. Alors c'est moi qui vous relater de manière un petit peu en RP.
Mais c'est stylé, c'est hyper stylé.
C'est trop beau.
Je mettrai des sons derrière, hein, Raph. Hein. Oui, franchement, je mettrai des sons.
Le feu qui craque.
Le feu qui crépite, le bruit des barres.
Ça commence et se termine en 5 volumes. Autrement dit, quand vous prenez les livres, vous en avez que 3. Donc c'est intéressant, c'est une autre décomposition de l'histoire que je
vous. Ah, d'accord.
En fait, tout commence pendant que, là, justement, dans les films, on le voit, Aragorn part avec les hobbits, demander conseil à Frodo. Il vous est demandé, alors pour vous, de veiller sur le village de Bri, car l'un des rôdeurs qui protège la ville s'est retourné contre ses. Puis, vous partez pour les terres solitaires, en passant par Amansoul, mon ventoux.
Ouais.
Vous observez des traces de lutte, avant de rejoindre Radagast, qui a trouvé refuge non loin de là, car un nécromancien tente de s'allier avec Sauron. Au fur et à mesure du temps, on se voit que déjà, BR n'est pas d'Aragorn, en fait. Vous êtes par la suite ramené aux frontières nord de Bri, parce que Langmar déferle dans les hauts du nord, et vous devez unir les peuples, soit elfes, nains ou hommes, contre l'ennemi qui arrive inexorablement. Donc, votre travail, là, c'est de remplacer Aragorn qui lui est parti, parce que, pour faire une quête bien plus importante que celle de surveiller les frontières. Vous prenez par la suite la route de la Troue et des Trolls, en passant à côté de Vert, Tom et Lee, pour une quelque chose. Les trolls, changés en pierre grâce à Bilbon, 60 ans auparavant, et vous retrouvez Aragorn et les hobbits dans son coup. Ils ne peuvent partir tant que l'un des Nazgûl, échappé miraculeusement des supplications d'Arwen au Glenlandin, reste dans les parages. La trace du Nazgûl vous mène plus au nord, dans les monts Bruno, où celui-ci tente, avec un autre nécromancien, de réveiller un dragon, Thorog, et bien que vous réussissiez à faire fuir le Nazgûl auprès de son maître, le dragon lui s'échappe. Votre route vous amène ensuite en Angmar, là où le roi sorcier règne en maître, aidant les rôdeurs du mieux que vous le pouvez, avant d'en apprendre un petit peu plus sur la chute des différents royaumes des hommes. Vous savez que sur l'est, il y a ce que l'on appelle le Gondor, et autrefois à l'ouest, il y avait l'Arnor. Et l'Arnor était fondé de 3 royaumes, étant ceux de Arthedain, Cardolan et Formus. Un jeu de piste, du coup, vous mène en Evendim, puis en Forochelle, où vous trouverez le bateau échoué du dernier roi, justement, d'Arthedain, l'Arnor. Au fur et à mesure du temps, en fait, on en apprend un petit peu plus sur le lore du Seigneur des Anneaux. Et finalement, vous revenez à Foncombe, car vous avez écarté le danger du Nazgûl qui rôdait, et vous êtes donc témoin, là, du départ de la communauté, mais vous ne la suivez pas. Après votre réussite dans les défenses des peuples libres, en Eriador, elle ronde à une autre mission. Si nous avons donc terminé ce premier volume qui s'appelle « Les ombres d'Angmar », le deuxième volume, lui, s'appelle « Les mines de la Moria ». Dans cette nouvelle aventure, Elrond vous demande de voyager derrière la communauté, effaçant donc leurs traces et en prenant garde à la perfidie de Saruman, qui entre-temps a trahi les peuples élus et désire plus que tout même. Une fois la communauté de l'anneau partie à l'est, par le col de Caradhras, vous les pensez alors en sécurité et prenez par le sud, car le voyage pour vous sera plus long, car Elrond souhaite que vous ayez une grande expédition naine à entrer dans la Moria. Après avoir essuyé des pertes par le guetteur de l'eau, vous entrez finalement dans les mines. Mais la joie des nains de retrouver leur cousin Balin, qui, auparavant, avait déjà mené une expédition quelques années avant justement les frères, laisse place à un goût amer. Balin est mort, et il semblerait que son tombeau ait été témoin d'une récente bataille. Vous comprenez vite qu'il s'agit d'un piège, et que les gobelins sont partis, sous le contrôle d'un ennemi que l'on appelle Mazon, qui n'est autre que le fils d'Azog, le profanateur. Au cours de beaucoup de batailles, partout en Moria, vous explorez alors le sommet de la mine, qui s'appelle Zirakziki, et en contrebas du sommet, vous apercevez le corps gisant, du ballon. C'est une grande victoire. Vous vous dirigez donc vers les frontières à l'est de la Moria, car il faut en informer au plus vite les elfes de la Lothlorien. Le fléau de Durin, l'ombre et la flamme n'est plus. Mais en arrivant au pont de Katadum, celui-ci va être détruit.
Et quelques jours après, quoi.
Mais on ne sait pas que la communauté est venue justement dans la Moria, puisqu'on pensait qu'il passait par les
Moria. Oui. Oui, c'est-à-dire que le personnage ne sait pas, le joueur, lui, le sait.
Le personnage ne le sait pas, effectivement. Alors, comment est-ce qu'il va le connaître? Eh bien, peu de temps auparavant, dans ce que l'on appelle les fondations de pierre, le niveau le plus bas des mines, vous aviez effectivement retrouvé les débris d'un pont, ainsi qu'à côté un chapeau pointu bizarre. Tout fait donc sens, puisque la communauté n'est pas passée par l'école de Caravans, mais bien par les mines de la Moria. Gandalf avait sans doute tué le Balrog, mais à quel prix? Sortant des mines, vous progressez à vive allure pour atteindre la lisière de la Lothlorien. Il faut que Galadriel et Celeborn, les seigneurs elfes, en soient informés, et vous y retrouverez alors la communauté qui vous apprend ce que vous redoutiez. Gandalf en place tout. Afin que la communauté puisse descendre en toute sécurité le long du fleuve de l'Anduin, vous êtes envoyé dans la forêt noire. La Lothlorien a lancé une campagne contre la principale forteresse de l'Anduin. Vous faites donc écran, tandis que la communauté prend le fleuve en vue. La campagne se passe plutôt bien, mais un messager vous retrouve et vous demande de revenir à votre ronde. Elle ronde à d'autres choses, pour d'autres choses encore à vous apprendre.
Suspense.
Le troisième volume s'appelle Les Alliés du Roi. Arrivé auprès d'Elrond, celui-ci s'inquiète du pouvoir grandissant de Saruman. Si Aragorn veut devenir roi, il a besoin de soutien. Vous devez donc retrouver tous les rôdeurs que vous aviez aidés auparavant partout dans les rives d'or et les faire chevaucher avec vous. C'est en quelque sorte une course contre la mer. En chevauchant au sud, vous passez par les ruines elfiques de les régions, là où un âge auparavant, Sauron avait manipulé Celebrimbor pour forger les anneaux de pouvoir. Franchissant les frontières du pays de Dune, vous tentez d'aider les clans qui résistent contre Saruman. Alors du coup, on aide beaucoup de clans, mais finalement l'un de ces clans le plus important, le clan du Faucon, vous trahit. Nombre des rôdeurs qui se trouvaient avec vous meurent ou sont portés disparus, et vous êtes capturés et enfermés dans les geôles des Indiens. Torturé pendant de nombreux jours par le magicien blanc, vous résistez à parler de Frodo de l'homme. Vous réussissez par chance à vous évader avec d'autres prisonniers. Dans votre fuite, vous rencontrez quelqu'un qui n'est plus à peine mentionné dans le film, Théoden.
C'est le fils de Théoden.
C'est le fils de Théoden, le roi du roi.
On le voit 5 secondes à peu près au moment où il meurt.
Il s'apprête à attaquer Saruman et en fait, trop tôt, lui. Finalement, il se retrouve encerclé dans les guets de Lisenne. Et vous vous retrouvez à battre avec lui. Et malheureusement, même si vous vous battiez comme un beau diable, les Uruk-hai sont trop nombreux. Vous êtes obligé de vous replier avec le corps de Théodred mortellement blessé, laissant le contrôle de la route menant à Edoras, où séjourne le roi de Théoden, librement de sa vie. Le soir, dans votre lit de fortune, à même le sol, Galadriel vous apparaît en son. La communauté attaque sur les rives de l'Anduin, celle-ci s'est éclatée. Vous devez les retrouver. Partant dans la nuit, vous remontez l'Anduin et tombez dans une clairière remplie de cadavres de rues. L'un d'entre eux est grièvement blessé. Celui-ci vous révèle qu'un homme s'est battu contre beaucoup d'entre eux et qu'il a fini par mourir, et vous indique une direction par Galadriel. Vous y trouverez un bateau caché, l'un de ceux prêtés par Galadriel dans vos souvenirs pour descendre le fond. Vous en déduisez-vous?
C'est Boromir dont il parle.
Oui.
Oui, en fait, bien
non,
sûr.
C'est pas celui de Boromir.
Non, mais je veux dire, il parle de Boromir qui s'est battu contre les Uruk-hai, l'homme voilà. qui a fini par mourir.
On sait qu'il y a eu une grande bataille et que du coup un homme est mort, mais pas le corps.
Oui, c'est le personnage déduit que c'est soit Boromir, soit Aragorn.
Oui, c'est là où on a un petit problème. C'est que le bateau qui est caché, s'il est prêté par Galadriel, effectivement, on sait que c'est un des bateaux qui est parti dans l'huile et il appartient à la communauté. Mais le fait qu'il soit caché, on en déduit donc qu'ils sont partis à tout. Et donc, à ce moment-là, on abandonne à ce moment-là Sam et Frodo parce qu'on ne pense pas effectivement qu'ils ont pris ces bateaux.
Ah, mais oui, du coup, forcément, on suit Aragorn, Gimli et Legolas, et on oublie de se dire que Sam et Frodo sont partis tout seuls.
C'est ça, pendant toute l'histoire, soit on dépasse la communauté, soit on la précède,
soit on est complètement largué, quoi.
On est derrière, effectivement, ou à des moments on les rencontre. Hein. Mais c'est vraiment de manière très très,
succinct.
Très très succinct. Et donc, vous en déduisez, comme je vous disais, que la communauté est partie à pied des chutes du Vauros. Vous prenez alors par la trouille du rang, et vous tombez sur Réon. Il nous indique avoir vu un homme, un elfe et un nain dans le Riddermark.
Que font un homme, un elfe et un nain dans le Riddermark?
Vous décidez de prendre alors la route d'Edoras pour aller rendre visite à Théodred. Vous êtes aviez laissé effectivement blessé très grièvement. Arrivé dans la ville, vous prenez place et attendez votre tour pour l'audience accordée par le roi de vous entendez alors un grand fracas. Et derrière, une voix familière. La courtoisie de votre demeure a quelque peu diminué.
C'est Gandalf.
Le fils de Tengel. Effaré, vous vous retournez effectivement. Gandalf, accompagné de Legolas, Gimli et Aragorn, entre dans la pièce. Et libère Théoden de l'emprise de Saruman.
Classe.
Vous apprenez donc la mort de Théoden par Gandalf. Il vous somme alors de partir préparer la forteresse de Poutre de Helm, tandis
Ah oui, là on est en avance du coup.
Voilà, on est en avance. J'arrive en gare, et déchaîne. C'est déchaîne. Lors de la nuit précédant la bataille, vous êtes chargé de l'avant-garde d'un petit gouffre, un petit fortin, juste dans la plaine, devant la forteresse.
On participe à la gouffre.
On participe effectivement à cette bataille. La forteresse qui tombe d'ailleurs, ce petit fortin tombe alors rapidement. Avec une poignée de survivants, vous essayez de rentrer rapidement dans la forteresse, qui est désormais assiégée. Après donc une première défaite, vous êtes secoué avec Aragorn par l'explosion du mur, et vous descendez par la suite dans la tour, tentant d'endiguer l'arrivée du groupe terrible néant. Vous vous repliez alors sur les contreforts avant d'être à nouveau débordé, et la fin de votre bataille se fera différemment puisque vous êtes envoyé dans les mines en tentant de protéger le peuple.
D'accord, donc nous on protège les gens dans
les mines. On va pas l'arrivée de Gandalf.
Mais oui,
et il t'envoie dans les...
On t'envoie dans les mines,
sentientes. Le but c'est vraiment de suivre tout en étant le personnage caché.
On est l'ombre en fait, voilà, c'est l'ombre, de cette première épée. On est le gars dont personne ne se souviendra à la fin en fait.
C'est ça, tout à fait. Puis vient Gandalf avec Éomer, vous sauvez au premier moment. La bataille est donc terminée, et vous chevauchez en Isengard confronté Saruman.
Ah, on va avec tout un point, là on a vu de retour, ouais, clairement. Ouais.
Voilà. Confronté Saruman devant ses actes, celui-ci est tué d'ailleurs par son serviteur Grima, avant d'être à son tour tué par des glaces.
Ah, avant d'être à son tour tué par... Attends, du coup, je lève la main, du coup ça veut dire qu'en fait le jeu suit le scénario du film, et pas du livre du coup.
Ça dépend, pour beaucoup de choses, ils suivent le scénario du livre. Suivent le scénario effectivement du livre.
Et parce là, que du coup, pour là, ils suivent le film, puisque Saruman normalement survit dans le livre et va envoyer à la comté.
Oui, c'est
vrai.
Et tu rajoutes un bon gros paragraphe final.
Après, c'est peut-être pour moi qui me mêle les pinceaux ici.
Non, mais
peut-être qu'ils ont
toujours trouvé ça plus logique de faire ça pour Saruman meurt, effectivement, à ce moment-là, plutôt d'attendre la fin.
Moi, je ne ferais pas la
version du bouquin est bien, mais c'est juste que je comprends que dans le film de 4h30, ils n'aient pas voulu rajouter un dernier chapitre.
Même dans le bouquin, je dirais que c'était peut-être un petit peu maladroit, enfin scénaristiquement, je trouve que c'est pas nécessairement...
En fait, t'as vaincu le boss final, t'as l'impression que t'as un autre mini-boss qui sort à la fin, quoi.
En plus,
c'est Saruman déchu, quoi.
Ça va être tout
le paradoxe, justement, après.
Pardon.
Mais oui.
On peut en parler pendant
Le quatrième volume, lui, s'appelle La Force de Sauron. Il commence, vous festoyez finalement avec Merry, Pipin, Aragorn, Legolas, Gimli et Gandalf à Méduzel, le palais d'or des deux races. Gandalf est préoccupé par le sort de Frodon et Sam, mais Aragorn le rassure. En revanche, le Gondor est faible et appelle à l'aide. Le lendemain de la fête aux morts, les feux d'alarme sont allumés. Le plan de Gandalf se met donc en place. Il est sensiblement le même effectivement que dans le film, à ce sujet qu'il vous intègre dans vous.
D'accord.
Dans le sens où, effectivement, Pipin et lui-même chevaucheront à Minas Tirith pour attirer le regard de Sauron. Après, la grosse boulette de Pipin, effectivement. Et donc, donner du temps à Frodo. C'est ça l'idée. C'est vraiment de lui donner du temps pour pouvoir détruire la nuit pour qu'il survive dans tout le monde.
Bien sûr.
Théoden, Aragorn, Gimli et Legolas vont rassembler les Rohirrim et partir aider Minas Tirith et le Gondor. Mais quant à vous, il vous faut passer par la montagne des morts afin d'aller au Gondor au plus vite, préparer les habitants et l'arrivée d'Aragorn, qui lui, va passer par la mer.
D'accord.
Va passer par la terre.
Et le passera par la mer.
Par ce plan, donc, vous aidez Aragorn à sécuriser plusieurs grandes villes gondoriennes tombées aux mains des corsaires ou avec de fortes influences. Vous libérez donc Dol-Amroth du mal, puis Pelargir. Et de là, Aragorn passera par le fleuve pour vous aider en temps venu dans la bataille.
Comme quand il arrive avec le bateau.
Votre chemin est encore long, car arrivant dans les champs de Pelennor pour prévenir effectivement Minas Tirith, vous observez la fuite des soldats des Gondor et déplorez la perte de Osgiliath. Il arrive effectivement au moment où Gandalf sort.
Ouais.
En fait, il arrive à ce moment-là et il peut récupérer un peu par Minas. Ce dernier, rentré donc dans la cité de l'Anche, vous informez de l'avancée du clan de Gandalf et ce dernier vous demande de rejoindre Théoden et de préparer leur arrivée. Sortant une extrémiste alors de Minas Tirith, vous observez les armées ennemies se rapprocher de la ville.
Ouais, c'est vraiment une extrémiste.
Celui-ci s'appelle Gotnog. Vous partez à la rencontre de Théoden, et de
Attends, le roi sorcier d'Angmar s'appelle Gotnog?
Oui.
Ça va être deux personnages différents, hein.
En fait, il y a deux personnes. Vous avez le roi sorcier d'Angmar
et il y a Gotnik.
C'est soumis à caution, on sait pas.
Y a oui, bien... on sait pas si c'est un Nazgûl ou pas, mais il y a ces deux fait, personnages différents, le roi sorcier d'Angmar et
Gotnik. Il y a trois choses différentes, ouais. C'est l'aspect du film, c'est l'aspect du livre, c'est l'aspect du jeu. Parce qu'en fait, il y a un jeu, il y a le, en fait, on sait pas trop bien qui c'est ce Godmog, il a été transformé en méchant dans le jeu.
Ouais.
C'est lui qui gère, effectivement, d'Angmar, sous le nom, effectivement, de le roi sorcier d'Angmar. Et effectivement, il y a le chef des Nazgûl qui lui a tout
fait. Ah d'accord, donc en fait ils ont... Ouais, ils sont pas un mix-up,
c'est
un
assez
peu
ambigu
chelou,
parce que dans Legendarium, il y a plusieurs Gothmog en fait. Il y a le premier, c'est le seigneur des Nazgûl. Des Balrogs, en fait, au premier âge, Gothmog, c'est le chef des Balrogs, c'est le plus puissant des Balrogs qui mène ses frères au combat.
Donc, du coup, là, c'est clairement pas le premier Gothmog, du coup.
Morgoth, non. Là, c'est un autre qui porte le même nom, et si j'ai bien compris, dans le bouquin...
C'est jamais décrit ce que c'est.
On
ne
sait pas trop
si
c'est un
Nazgûl
ou si c'est un Numenoréen noir, éventuellement.
Ah, mais oui, comme la boue de son.
Ouais. Et je pense qu'ils ont joué sur cette ambiguïté dans le jeu, ce qui n'est pas une mauvaise
chose. Oui, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ouais.
Une fois que vous avez effectivement rencontré Théoden, vous passez du coup par des terres qui sont vraiment inconnues pour les gens qui ne regardent que les films. Ce sont des zones où j'ai perdu le nom des petites peuplades. C'est une sorte de petites peuplades de pygmées qui sont en fait dans le Seigneur des Anneaux.
Ce sont
des personnes qui façonnent des petites statues qui vont être.
Pas les Druedines.
Si, c'est ça, c'est les Druedines. Voilà, j'avais perdu le nom. Ce sont des sortes de pygmées qui façonnent des statues en bois, qui sont des gardiens. Dans cette forêt qui se trouve entre le Rohan et le
J'en ai aucun souvenir de ces mecs-là.
Ils sont cités dans les livres.
Ouais,
c'est eux qui guident
les trois bouquins, mais j'ai vraiment plus de souvenirs.
C'est eux qui vont se servir à guider, effectivement, pour pouvoir avoir une route safe pour aller à...
C'est comme ça que Théoden arrive vite et bien.
Sur le champ de
Bénémoire.
Parce qu'en même temps, Sauron essaie de, justement, il se dit qu'il y a quelque chose, donc il essaie de te barrer le passage.
Ben oui, normal, stratégiquement parlant.
Enfin, vu que au niveau terrestre, tu arrives dans une route inconnue et que tu ne te doutes pas qu'effectivement il y a plus de corsaires qui vont venir aider, mais c'est Aragorn qui vient.
Et le seul qui connaît ce passage, c'est le chef des Druedines.
D'accord.
Donc, une fois que vous êtes effectivement arrivé avec Théoden, vous observez une chose, vous observez à votre retour la ville incendiée, mais qui a tenu. Et vous participez alors à la charge des Rohirrim. La bataille féroce vous oppose à différents ennemis, que ce soit Nazgûl, Orc, Homme de l'Est, Numakil, ou Théoden. Mais l'arrivée d'Aragorn et l'armée des morts change la donne, la cité est sauvée et le plan de Gandalf peut continuer. Pour cacher donc l'avancée de Frodon et Sam en Mordor, comme on l'a vu dans les films notamment, si tant est qu'ils réussissent, vous partez avec le reste des héros à la Porte Noire. Passant par les Giliens, les ruines gondoriennes d'Osgiliath sont libérées et vous arrivez dans les terres dévastées devant les frontières du Mordor. Une cinquantaine des personnages que vous avez rencontrés durant toutes vos aventures vous accompagnent. Et au fur et à mesure de la bataille, vous assistez impuissant à la mort de nombre d'entre eux. Mais les aigles arrivent pour vous sauver, et l'impensable se produit, la tour de Barad-dûr s'effondre, l'anneau de pouvoir a été détruit.
Yes.
Votre quête de protection de l'anneau est donc une réussite. Le dernier volume, c'est celui de la Terre du Milieu, parce que si les films s'arrêtent effectivement à la destruction de l'anneau, c'est pas le cas effectivement du jeu, parce qu'il y a encore pas mal. En fait, vous voici arrivés en paix, certes, Sauron a été détruit. Vous relatez les faits à Galadriel en Lothlorien, et celle-ci vous invite à observer la destruction de Bol-Bol-Bol. Vous êtes témoin de la puissance de la Dame Blanche, qui a explosé la forteresse avec son anneau de pouvoir d'un glacier. Vous escortez alors Galadriel, Celeborn, Círdan et Elrond, venus avec Arwen au mariage de celle-ci. Vous êtes, par cette cérémonie, considéré comme défenseur de l'Aïador contre l'Arnar, ami de la garnison de fer naine de la Moria, Rohirrim de la Marche et cerise sur le gâteau, père des peuples libres de la Terre du Milieu.
Hyper classe.
Aragorn vous demande toutefois de continuer vos efforts, car en Mordor, les lieutenants de Sauron sont toujours là.
Pas gêné, nous.
Attends, maintenant qu'il a réunifié l'Arnor et le Gondor, il faut.
Mais il va venir aussi, hein.
Il vient, d'accord, ok,
Aragorn vous demande, comme je le dis toutefois, de continuer vos efforts, parce que les lieutenants de Sauron sont toujours là, et ils sont nombreux, ils sont environ une dizaine. Au fur et à mesure du temps, on va enfiler les plus grands, bien sûr.
Ah, d'ailleurs, est-ce que je peux te poser une question? Ils ont pris quelle partie quand on sort des Nazgûl dans le jeu? Est-ce qu'ils survivent ou pas à la destruction de l'anneau, ou est-ce qu'ils sont bannis?
Bah, j'imagine qu'il faut les buter, je sais pas.
Les Nazgûl sont détruits.
Ça paraît assez logique.
Il reste en fait que les grands lieutenants. Ça peut être des orques, ça peut être des trolls.
D'accord.
Le numéro 1, moi.
Parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est...
Même, on les a oubliés, personne n'en parle.
C'est le lieutenant qui s'en occupe. Et donc, du coup, au fur et à mesure, effectivement, de l'histoire, les serviteurs de Sauron, ces lieutenants, deviennent de moins en moins nombreux. Comme on le disait, que ce soit par votre épée ou par la perfidie de certains d'entre eux, il en reste de moins en moins, et on va rester sur le nombre de quatre. Poursuivant donc l'un d'entre eux, qui est sans doute l'un des plus badass de ce jeu, qu'on appelle Karasgar, qui est en fait une sorte de héros à la Assassin's Creed, mais orc.
Oh! Et qui, en c'est fait, un orc assassin.
Effectivement, cherche qu'une chose, un livre, qui s'appelle le Livre Noir du Mordor.
Ouais.
Il y a une histoire qui est relatée à l'intérieur. Je vais pas spoiler, mais il y a beaucoup de choses qui sont comme le tout premier Nazgûl, comment est-ce qu'il a été créé. Comment est-ce que, effectivement, certaines tribus naines se sont retrouvées au Mordor, tenues esclaves.
Oh.
À Sauron. Et d'accord. En fait, il cherche des noirs secrets. Et il cherche notamment peut-être la possibilité que Sauron ait eu un enfant. Parce que c'est prévu, effectivement, que, avec une autre de ses lieutenants, qui s'appelle l'ARF, une sorte de souris humaine, effectivement, il lui avait promis un enfant pour pouvoir, pour faire d'autres missions, etc.
D'accord.
Parce que Asgard voulait juste les affinités de Sauron, donc du coup, c'était un danger. C'est toujours le même problème, c'est comme des petits seigneurs qui se font la guerre.
Finalement. Ouais, je vois la tête de Jeff qui est en train d'imaginer Sauron copulé avec une chauve-souris.
Genre, oui, c'est vrai.
Ouais. Moi aussi. Ça fait des images à cauchemar dans ma tête.
Donc, vous poursuivez donc ce Karasgar en revenant. Votre chemin vous mène au royaume céleste de Verbois le Grand, dans la demeure de Tranduil, du palais d'Esgaroth, qui vous demande de suivre alors votre piste plus au nord et dans un village que vous connaissez peut-être sur le lac, ou son nom,
Lac-Ville.
Vous y trouverez des indices dans la maison du maître, vous menant droit à Tain. À nouveau habité par les descendants du roi d'Arbre, le tueur de dragons sous-mort. Celui-ci vous indique avoir observé Karasgar non loin de la montagne solitaire. Entrant dans le dernier royaume des nains de la Terre du Milieu, vous êtes par la suite envoyé par Durin VII dans les monts de fer. Karasgar vous réveille un grand dragon de l'âge de Smaug, vêtu de l'esprit de lumière. Il y parvient d'ailleurs, ravage la cité naine de Skarad, et il faut partir l'affronter dans la vallée des enclumes de Durin Vert. Une fois défait, vous êtes félicité pour avoir sauvé Erebor, mais Karasgar vous s'est échappé. Au royaume sylvestre, Tranduil vous fait une information.
C'était bien le reste. Karasgar est échappé.
Voilà, il y a plus de brouillard de guerre, là.
C'est clair, tu la connais par cœur, la map.
La retraite, il connaît pas.
Ce mec, fait tout, quoi.
Tranduil vous fait part d'informations importantes. Karasgar aurait été vu dans le Val d'Anduin. Parcourant donc les terres de Denborn et des Théornil, escaladant la montagne du Karok, où résident les aigles, ceci vous aide à retrouver Karasgar, qui, lui, ne veut plus se battre. Ne disant qu'une chose, le livre noir du Mordor, tant retrouvé dans une salle secrète d'Erebor auparavant, si vous ne pouvez pas dire,
voilà.
Lors de notre premier passage. Vous en faites donc part à Gandalf, vous partez donc à la ministérie, ou Gandalf.
Il n'est pas parti, Gandalf, encore?
Non. Ah. Il n'est pas encore parti. On est encore avant.
On est encore avant la fin, la vraie fin du Retour du Roi.
Donc il est resté à Minas Tirith pour étudier ce fameux livre et chercher ce qu'il referme. Celui-ci vous informe que deux Durzul, les noms des lieutenants de Sauron, s'affrontent pour le contrôle d'une autre forteresse, celle de Minas Morgul. Vous partez avec un corps expéditionnaire du Gondor, mené par Taramir. Après une guerre civile orque dans les rues de la forteresse, tu arrives.
Ouais, mais comme dans le bouquin, on a, les orques du Zangar, les orques du Mordor se battent.
Après une guerre civile,
c'est pas Mordor et Zangar,
progresser niveau par niveau.
Les orques et les Uruks.
Ouais, mais les Uruks viennent du Zangar, en passant donc.
Non.
Les Uruks sont pas forcément toujours des Zangar.
Non. Les Uruks, ils ont été créés par Sauron en premier avant d'avoir été récupérés par.
Oh, excuse-moi, j'ai fait un amalgame, pardon. Voilà, tous les Uruk-hai qui nous écoutent.
On se retrouve au sommet de cette cité, et en fait, vous retrouvez notre Gotman, celui qui avait dirigé
le fameux.
L'armée de Minas Tirith. Il avait été défait, il était replié dans sa forteresse de Minas Morgul, et du coup, là, son territoire était contesté. Et donc, du coup, il gît par terre, devant un eau-fort imposant, le second lieutenant qui s'appelle Hugo Cole. Celui-ci tente de vous tuer, mais par vengeance, Gotman le poignarde dans le dos et le tue. Puis rend son dernier souffle à son cou. Minas Morgul est donc tout confuse, et il faudra du temps avant de rendre sa beauté à celle que l'on appelait autrefois Minas Tirith. Une fois que vous êtes sorti de Minas Morgul, vous rejoignez Tranduil pour pouvoir rentrer dans l'antre de Shelob, puisque celle-ci est toujours là. Il se retrouve.
Ah, c'est Tranduil qui nous a rejoint du coup, en fait. Oui. Parce que...
Traqué par les Golas, avec les seigneurs finalement sylvains.
Ouais.
Et donc du coup, lui, il a plus, parce qu'il y a plein d'araignées chez lui.
Bah, en même temps, c'est les enfants de machines.
Chez l'homme. Et notre chercher l'homme et la dernière enfant d'une belle. Et donc, du coup, finalement, après avoir tué énormément d'araignées, et là, c'est vraiment pas quelque chose pour les arachnopopes.
Ben non, non,
arrive effectivement devant chez l'homme, et puis, après une grosse bataille, celle-ci tombe dans un ravin, mortellement.
Et ben. Tout
ça. La dernière chose que je vous dirais, c'est qu'une fois ce succès réalisé, et la menace d'un Mordor unifié écartée, vous êtes rappelé au nord. Car une autre forteresse est une menace, la terre du milieu. Car si le maître n'est plus, les serviteurs de celui-ci
mais
continuent
ça n'en
à vouloir
jamais.
Réaliser les dessins de ce monde dans les monts brumeux se réveille Angband.
Angband?
La forteresse de Mordor. C'est celle-là même où, dans ses plus sombres couloirs, Sauron avait échappé à la colère des Valar qui ont emporté son maître 2 âges plus tôt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la mise à jour, elle, n'arrive qu'en une question de temps, une question de jour, peut-être la semaine
prochaine. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, là, il y a toutes les extensions déjà de base là-dedans, là.
Yeah.
Ah oui, d'accord.
D'accord. L'histoire de ce jeu en 13 ans, de 2007 à 2020.
Ça a l'air vachement
ouais,
bien.
Ouais. Franchement, ouais.
Par
c'est
Angband dans les monts brumeux.
Ouais, alors là, je t'ai vu tilter, là. T'as fait une tête de pas content.
C'est au niveau des terres des Bermudes. Et en fait, c'est justement, les montagnes des monts brumeux.
D'accord, ce serait une nouvelle Angband, parce que pour moi, Angband, c'est la...
C'est la forteresse où est morte. La femme de... Ouais. Anduil et la mère de Legolas.
Et normalement, c'est au premier âge, c'est en Beleriand qu'il y a Angband.
Oui, oui, oui.
Mais c'est une autre
Angband. Elle a été rasée, alors, en fait, mais ouais, sur le même lieu d'Angband.
Juste, je précise, parce que là, c'est très drôle, parce que je vois
ça peut pas être le même lieu, puisque Beleriand a été
submergé. Je me sens un peu comme vous.
Je me sens
largué, en fait, parce qu'il est en train de se passer autour de moi. Merci les gars pour vos précisions, c'est incroyable. Vous avez un niveau qui est...
Impressionnant.
Ah ouais, c'est démentiel. Tu vois, ils sont rentrés en résonance.
C'est
où
tout le monde?
On
n'existe plus. Ok, ça fait sens.
C'est vrai,
c'est incroyable.
C'est
incroyable, on dirait des...
Ah ouais, c'est la première tout le monde. Ah, Morgoth, il avait deux bases et Utulno qui a jamais été
retrouvé.
Mais là, du coup, ça fait, oui, là, je, oui, d'accord.
Effectivement, pour vous dire d'ailleurs que, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est un autre aspect, en fait, du Seigneur d'Anneaux, c'est-à-dire qu'on s'inspire davantage des livres. Donc, pour les personnes qui n'ont pas lu les livres, mais qui ont vu les films, ça diffère sensiblement.
Ça diffère sensiblement.
Et après, c'est une autre vision, effectivement, parce qu'on est au plus proche de la communauté, et par contre, on le monde la dépasse.
Eh ben, merci Raphaël. En tout cas, moi, ça m'a surtout donné envie d'une chose, c'est que cet hiver, il va falloir qu'on se la fasse en série Seigneur des Anneaux, parce que les gars, vous avez un niveau démentiel là-dedans, mais du coup, ça va pas être à moi de l'écrire. Parce que ça sera pitoyable.
Faut que je relise le Silmarillion d'ailleurs, ça me fait penser.
Voilà. Et ben écoutez, vu qu'on parle d'Heroic Fantasy, je vous propose qu'on termine tout ça par une petite critique d'un livre d'Heroic Fantasy. Et c'est Jeff qui va nous faire ça. Et ben nous t'écoutons, Jeff, nous buvons tes paroles.
Eh bien, bien sûr, je vais rebondir du coup sur le petit chronique du Seigneur des Anneaux, hein, que vous n'avez pas vu venir. Hein,
ben oui.
Expert à tiffer.
Ben oui, avec Benjamin, visiblement.
Avec Benjamin, j'ai lu quand même pas mal.
J'ai pas tout retenu non plus. Hein,
je n'ai pas tout retenu autant de choses.
Les espèces de pygmées nains des marais là, par exemple.
Alors, j'ai essayé de faire vraiment le plus concis, c'est-à-dire que là, il y a vraiment énormément de choses qui étaient à côté, beaucoup de savoir et tout. Donc, on est resté sur des lieux qui restent assez connus, effectivement, quand tu regardes les films. Mais effectivement, tu peux faire encore plus complexe parce que de toute façon, Tolkien a fait un truc horrible pour les personnes qui lisent.
Oui, bien sûr.
C'est sûr. Alors, il continue ici,
Marion. Les trois premières pages, c'est indigeste.
C'est que des noms.
Tu perds 90% des gens.
Ouais, le fils du fils de machin qui a créé.
et donc, du coup, l'œuvre dont tu veux nous parler est plus simple, j'imagine.
Exactement.
En tout cas,
j'avais préparé une petite rentrée en matière, en fait. Mais ça ne va pas trop parler.
Ouais.
Je le montre belle, hein.
Et bah, écoutez, on va regarder ça.
Donc, du coup, oui, en fait, on va parler un petit peu d'Heroic Fantasy, pour changer, hein, bien sûr. Alors, c'est un petit peu un territoire qui est assez exploré, en fait, parce que, justement, je trouve que l'Heroic Fantasy, bon, on prend un peu cette idée un peu plus connue de voir des elfes, des orques qui baladent, et c'est assez figé, en fait.
Oui.
Souvent, on a le principe, c'est le héros, et on aura beau lire, en fait, d'autres livres, on se retrouve un petit peu tout le temps avec les mêmes marques, en fait, avec les mêmes attendu en fait des arbres pour dire du Seigneur des Anneaux.
On est un peu prisonnier finalement du schéma Seigneur des Anneaux finalement.
C'est difficile
d'en sortir.
Quelques bouquins qui ont pu me marquer un petit peu différemment.
Bien sûr.
Parce que les auteurs en fait sont un petit peu plus inspirés. Je sais pas, dans cette place un voyage.
Ouais. Dorvinox.
Même je l'ai vu récemment.
Terry Pratchett avec des disques
mous. Oui. Enfin, des trucs qui réinventent un peu le genre.
Ça prend un contre-pied, on va dire. Ouais. Et du coup, bah, là, ce bouquin, là, L'Enfant de Poussière, c'est un bouquin français, hein, que montre mon ami Franchon. Voilà.
Alors, le nom de l'auteur, je le demanderai à la personne la plus, c'est mieux parler anglais de le prononcer parce que...
Ce sera Benjamin.
Benjamin.
Alors, il semblerait que ce soit un certain Patrick K. Dudney.
Exact, très bien. Alors oui, c'est un auteur français, mais qui est venu en Angleterre, une petite
suite. D'accord. Et,
à nouveau.
Ah oui, d'accord, donc il est loin de l'Angleterre, quoi.
Loin de l'Angleterre, hein.
Il est dans les fameux cottages du Limoulin.
Oui. Et c'est énervant, parce qu'en plus, en plus d'être un bon écrivain, on le voit, c'est une espèce de pseudo-gothique, enfin, sur le côté, mais, tu vois, assez beau gosse, en
c'est fait. C'est le BG gothique
c'est
de manga,
gothique,
quoi, un peu.
Donc c'est, enfin, pourquoi il a le droit d'avoir autant de qualité en lui?
Et nous, finalement.
Et nous, pauvres mortels.
Pauvres mortels. Donc du coup, en fait, c'est fait apparemment une classification que je ne connaissais pas, ça s'appelle de l'art fantaisiste.
Ah bon.
Dans son interview, parce que je me suis intéressé un petit peu à
qu'est-ce qu'il a fait. Bien sûr.
L'art fantaisiste, bien sûr, je vois bien dans des petits coquins, hein, ça n'a rien à voir avec le terme, c'est honte à votre historique internet.
Ça me rappelle une blague, t'as fait exactement la même quand t'as parlé de hard science il y a quelques épisodes. Vous êtes connectés, les gars, vous êtes connectés. Ah oui, mais c'est comme quoi, dès qu'on dit hard, on pense directement au porno, quoi. C'est fou.
C'est sympa. Non, mais c'est bien. Quand je retrouve des blagues comme ça manque.
Je crois que j'aurais dû réécouter, du coup.
Non, mais c'est très bien, il y a un fil conducteur entre les épisodes.
En fait, c'est plus une agréable surtout parce que ça prend un peu le parti inverse de retourner les codes, en fait, qui nous sont proposés à chaque fois.
Ouais.
La fantaisie, en fait, c'est un peu pour illustrer, comme dans le Seigneur des Anneaux, en fait, on avait Bilbo qui s'inquiétait à savoir s'il avait assez cotisé pour sa retraite, ou Merry et Pippin qui ont des syndromes de stress post-traumatique après toutes les guerres qu'ils ont faites. Hein, on est vraiment sur la réalité pure et dure. C'est des histoires réalistes, mais dans un contexte un petit peu plus moyenâgeux, en fait, tout simplement. Alors bon, l'exemple le plus récent, hein, dont on n'a pas de parler, en fait, c'est un petit peu bon vieux sorceleur, ce bon vieux
Gérard Richard.
The Witcher, hein, qui incarne très bien cet état d'esprit, hein, c'est un anti-héros aux prises avec une vie dure et froid, où les monstres sont plus tapis, en fait, dans les entrailles des êtres humains que dans les
animaux. Que dans les animaux, ouais.
Bien sûr. Ben, c'est pas en tout, bon.
On parle très souvent de niche écologique dans les bouquins, d'ailleurs. Ouais, on parle un peu des crises des monstres, et les humains se sont en plus des salopards que
les
monstres.
On les préjugés, en fait, pour les humains par rapport aux
créatures,
Et souvent, à côté, en fait, on a des autres êtres humains qui sont bien pires, des bouchers. Alors, du coup, ce petit bouquin, en fait, par sa froideur, en fait, ça nous rappelle un petit peu The Witcher, hein, c'est l'âpreté d'un monde qui est sans pareil, il y a peu de lueur d'espoir, en fait, le simple réconfort, ça va être un bol de soupe chaude, en fait, devant un peu un...
Ouais, donc on n'est pas forcément sur une bonne ambiance...
Non, on n'est pas trop sur une bonne ambiance, d'accord. C'est assez dépressif. Hein,
Alors ça, super.
Pas le tome 1, hein, le tome 2 que j'ai lu,
c'est encore pire, ouais, d'accord, ok.
Là, il y a la peste, on spoil pas, mais bon, voilà.
D'accord.
On a envie de respirer un petit peu, enfin.
Ouais.
On écoute les chansons. Alors, en fait, l'histoire est finement écrite, hein. C'est un récit qui est ponctué d'une couple de petits détails qui animent les lieux.
Ouais.
Où évoluent les protagonistes. Donc, ça rend ça vraiment réaliste, en fait. On sent que vraiment, l'auteur, en fait, il va dans les petits détails pour vraiment faire vivre les tableaux, hein. Les villages, les villes, même les cultures, en fait. Que tu vas croiser. Il y a quelques phrases de fantastique, mais elles sont parsemées par-ci par-là, hein. C'est pas non plus, ça abonde pas, hein. Ça reste cohérent, ça reste, logique, hein. Quand l'histoire, je vais pas trop l'évoquer, en fait, le mieux, c'est de le lire, en fait.
Oui, bien sûr,
Au fur et à mesure. Faut juste savoir qu'au début, en fait, on fait les pérégrinations, en fait, d'un enfant de 8 ans.
Ah, d'accord.
Voilà. Ça commence à partir d'un enfant de 8
ans. Ça a été écrit en français ou en anglais?
En français, ouais.
Français, d'accord.
Après, je sais pas si ça a été traduit en anglais.
C'est l'avantage, c'est que s'il est anglophone, il l'a pu auto-traduire sans
ça. Parce que ça, c'est du coup, c'est sorti à Folio SF, et avant, c'était sorti au Diable Robert, ou ça.
Ouais, c'est notre... Ça, c'est d'ailleurs, excuse-moi, je fais un aparté, ça m'agace quand les trucs sont publiés, des rues fantaisies sont publiées dans des machins SF, excuse-moi,
d'un article sur lequel je suis désolé, mais là, je peux pas résister, ça me rappelle un article, alors, ça, c'est dommage, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc je pourrais pas vous dire qui est l'auteur de cette ignominie, mais c'est peut-être tant mieux pour lui ou elle, d'ailleurs, mais c'était un top 10 des livres de science-fiction à lire, Et il s'avère que plus de la moitié, c'était de l'heroic fantasy, ah, en fait.
Ça me dit quelque chose, je crois qu'on en avait parlé.
Donc, Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait finalement, dans tout ça, peut-être 3 ou 4 bouquins qui étaient vraiment de la SF, et tout le reste, c'était en vrai.
Ouais, non, mais oui, non, mais il y a un gros amalgame chez les gens de base.
En fait, oui, chez les gens de base, c'est les geeks, en fait, tu vois. Oh, bah, c'est un truc de
geek. C'est un truc de geek, on met ça dans le, même panier, ouais.
Mais on balance, et tout. C'est le pot pourri.
Ouais, c'est ça. Pardon, du coup, on te laisse reprendre, pardon,
c'est vrai,
on a fait un aparté.
Non, mais c'est très très bien, moi j'aime bien, c'est un aparté, en fait, on débarque.
Mais oui, oui, ça rend, c'est vivant, c'est vivant, ça anime.
Du coup, en fait, on se...
C'est pas Avignon, par exemple.
Je vais en revenir sur les pérégrinations de ce type d'enfant du temps, hein, qu'on voit grandir.
Franchement, on vient de se tirer une balle dans la tête après avoir entendu la blague.
C'était quoi?
Non, j'ai dit une connerie.
J'ai essayé de faire vite, il me reste 40 pages, et il y a beaucoup de qualité, franchement.
Oui.
Mais le
mensonge. J'en ai pas un.
Allez, va, allez,
vas-y, vas-y, continue, continue.
Allez, complimente tes paroles.
On a été horrible, là, oui, clairement.
Donc, du coup, en fait, on le voit grandir et s'affirmer. Et on sent un petit peu comme lui, en fait, l'auteur va nous balader de droite à gauche. On sait pas, du coup, en fait, où va mener les différents chapitres. On va revenir, en fait, sur quelque chose de complètement différent.
Ouais.
Justement, à chaque fois, en fait, on perd rapidement pied, en fait, hein. Les personnages ont fait de faux semblants, ils sont délibérément difficiles à cerner.
Mm-hmm.
Je sais pas, bien sûr, qui sont les gentils, qui sont les méchants, on est très loin du maïdéisme. Du coup, en fait, l'auteur, justement, il prend un malin plaisir à casser les codes, hein. On voit arriver des fois un vieux sage, on va s'imaginer, comme d'habitude, en fait,
le mentor est en fait, non,
changer la donne. Et en fait, on a autre chose complètement différent. Les personnages ne sont pas immorales ou cruels, ils sont juste définitivement humains, hein, dans leur qualité ou dans leurs défauts.
Mm-hmm.
Par exemple, quand on croise des guerriers, on est très loin du chevalier blanc immaculé, on est plus dans le soudard ou le mercenaire. Hein.
Ouais.
En fait, on sent que l'auteur, en fait, il s'est renseigné, il a interviewé des vrais soldats, des vraies personnes qui sont parties à la guerre, pour vraiment en faire ressortir, on va dire, toute la noirceur, en fait, hein, l'horreur, les sensations d'un environnement guerrier. En fait.
Le côté réaliste de la
guerre. Ouais, t'as vraiment quelque chose de réaliste. Si on glorifie pas la guerre, hein, on la représente telle qu'elle est horrible, inhumaine, même le destin des personnages, en fait, que ça soit des secondaires, en fait, tu sais pas qui va vivre, qui va survivre, c'est complètement aléatoire, mais en fait, quand ceux qui survivent, elles sont encore pires que la mort, en fait. Donc,
ouais.
Les vrais héros sont ceux qui ne rentrent pas.
Exactement.
Et hashtag guerre d'Irak, hashtag.
Bataillon sacré.
Et du coup, on en ressort souvent, en fait, exténué par ces chapitres étouffants et où le joueur prend son temps.
Ouais.
Dans les moments difficiles, hein, c'est non pas par sa vie, mais en fait, c'est juste pour, par nécessité de montrer tous les tenants et les aboutissants d'une situation.
Ouais, renforcer le réel,
quoi. Il va renforcer le réel, ouais. Il va montrer jusqu'à l'extrême, en fait, par exemple, au moment d'un entraînement, en fait, du guerrier, on fait tout l'entraînement.
Ouais, de A à Z, quoi.
En bref, je regroupe ce petit ballet de 500 pages. Hein,
ouais, ça a l'air relativement...
accompagné de son petit frère, mon deuxième tome qui est sorti récemment. Il y en aura en tout 7.
7 Ah oui, d'accord, il a pris une enfant 7.
Ah oui,
il est choubillon, ouais.
Le cycle de Sif.
Voilà. En fait, c'est son prénom, Sif. Sif, c'est le nom.
Ah, c'est son bureau.
Ouais, en fait,
donc c'est l'histoire d'un personnage et t'en auras plusieurs. Voilà.
Exact. D'accord. Et bon, tu vas suivre son... Alors après, je sais pas s'il y aura d'autres sites avec d'autres personnages. Et Sif, en fait, c'est un nom dans une langue imaginée, en fait, ça veut dire étranger.
Ah, d'accord, ça veut dire étranger.
Il a été adopté, on va dire, par une
tribu, entre un clan.
Non, même pas, en fait, par une vieille veuve.
D'accord.
Qui a un peuple des gamins,
qui a l'air lambda. Étranger.
Voilà, elle l'a appelé Sif, parce que c'est un gamin lambda.
Non, parce que Sif, c'est aussi la déesse de la guerre chez les Vikings.
Ah bon?
Oui.
Ah oui, je suis d'accord. Très ignorant du panthéon.
Le panthéon nordique.
Ah oui.
C'est vrai aussi,
oui. Ouais, c'est la guerre chez.
C'est pas pareil, en fait.
C'est script, ouais, c'est S. Ouais.
Ah, oui.
Donc c'est complètement pareil.
Bah,
c'est S-Y-S.
Ouais.
Voilà.
Là, c'est S-Y-2-F-E.
Oui.
Je vois que monsieur.
Et voilà, pour ma présentation.
Eh ben, merci, voilà. Jeff, c'était ta première chronique. Après ton débat, je pense qu'on peut t'applaudir une nouvelle fois.
Ouais.
Oui, bravo.
Et contrairement à ce que les autres ont dit, j'ai trouvé ça très intéressant.
Hourra pour Jeff.
Hourra pour Jeff.
Je suis loyer avec des mouches.
Eh ben écoutez les gars, et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc merci à vous, merci pour votre intervention. On
merci.
A eu un gros fil rouge quand même pendant cette émission, parce que vous aimez parler de guerre, de sang et
les trucs de bonhomme,
et les trucs de bonhomme comme
bagarre.
Voilà.
Et du coup, merci Franchon pour avoir parlé de beauté un petit peu en début de l'émission, parce que ça change de tout ça, quoi. Non, si, si, vas-y, vas-y, balance. Hein.
Non, j'allais dire de chapeau, mais c'était tellement une minuscule partie de...
Est-ce que ça te fait parler plus de chapeau à la base?
Mais pas du tout.
Ça me gêne un petit peu de participer à ce renforcement de clichés.
C'est... Ouais, bah, ouais, mais t'as choisi, t'as mis ton...
Ouais, ça fait chier. Bon, la prochaine fois, je fais un truc sur, je sais pas, sur autre chose, on verra.
Sur autre chose. C'est joli, les fleurs, c'est beau, les fleurs. Merci encore une fois à tous. Merci à toi, Benjamin. Merci à toi, le coussin rouge. Merci à toi, Fanchon. Merci à toi, Raphaël. Merci à toi, Jeff. Merci à vous également, chers auditeurs qui êtes là-haut et qui nous entendez peut-être. Je ne sais pas.
Si vous nous regardez,
si vous nous regardez, si vous nous écoutez. Merci.
Merci. Et...
Bisous.
Bisous. À plus tard.
Merci. Bisous. D'accord. Attends, juste deux secondes.
Ouais.
Parce qu'en vous mangez, est-ce que vous pouvez couper votre micro, les gars? Parce que je pense que les crocs, à mon avis, c'est moi, je les entends ici. Je pense que le micro qui est entre vous deux les entend également. Je vous laisse, est-ce que vous pouvez le chlouquer?
C'est bon, ça va. Moi, j'ai terminé.
Non, mais après, vous avez le droit de manger. Super. Allez, mangez, les gars.
Mangez.
Brave, Jean. En plus, c'est la personne qui parle de gourmandise qui dit ça.
Oui, c'est vrai.